comme d'hab. Soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Léa Canon
aujourd'hui.
Marina Rollman. Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tout à l'heure Tanguy Bassureau. Et nos invités Céline Salet et Kadia.
C'est la fin pour Daniel.
Enfin une bonne nouvelle.
J'ai eu dans la loge, j'ai eu peur quand même. C'est bizarre cette démarche à la.
Bah, c'est l'homme qui m'a
dire de non parce que ça rend des problèmes.
Une belle équipe est au cinéma à partir de ce mercredi, signé Mohamed Hamidi, celui qui avait réalisé notamment La Vache. Et d'ailleurs, ce petit clin d'œil ou gros clin d'œil à Jamel Debbouze parce que c'est lui qui produit ce film La Belle Équipe. Je ne sais pas à quel point d'ailleurs il a été présent pour vous sur le tournage ou dans le travail de préparation.
C'est merveilleux. Un jour, il est venu en hélicoptère sur le terrain.
Il est venu en hélicoptère sur le terrain.
Bah oui, c'est
sans
déconner. C'est vrai. C'était génial. Extraordinaire.
C'est-à-dire, vous étiez en train
c'est
de.
Ce genre de présence dont on parle.
Mais par contre,
on appelait ça du charisme.
Mais on n'a pas eu de cantine pendant une semaine à cause de ça. C'est le seul problème.
Il fallait bien que le budget quelque part.
Le kérosène, ça coûte cher.
Kad, Meral et Céline Salet sont nos invités. Il y a Alban Ivanov dans le film, Sabrina Ouazzani, Laure Calamy, Guillaume Wix, entre autres. Un casting absolument impressionnant et efficace, évidemment, pour le film qui raconte l'histoire d'un. J'ai oublié André Wilms, que je voulais absolument citer parce qu'il est grand aussi. L'histoire d'un club de football qui, suite à une bagarre, on voit, je vais essayer de ne dire que ce que l'on voit dans la bande-annonce. Tant qu'à faire, pas divulgaché. Suite à une bagarre, tous les joueurs sont suspendus, mais pas le club en fait. C'est-à-dire le club peut continuer la compétition.
Il reste trois matchs avant
la fin de la saison.
Il manque un point.
Avec un risque d'être relégué, il manque un point pour réussir. Tous les joueurs sont suspendus à cause d'une bagarre où un arbitre s'est fait casser le nez sur un coup de coude. Maladroit d'ailleurs. Hein. On voit les images, la VAR est là pour le prouver. C'est totalement maladroit et pas du tout volontaire. Mais bon, ils sont tous suspendus. Et de là arrive l'idée de votre fille dans le film, Kadmirad, vous qui êtes entraîneur, ex-joueur de ce club.
Ex-star.
Meilleur buteur du club.
Il n'avait pas le mental, mais bon.
Non, il n'avait pas le mental. Mais il faut dire que si on n'a pas le point, c'est pas la relégation, c'est la disparition du club.
Oui, parce que vous êtes en dernière division.
C'est la dernière division, 7e division. Et c'est vrai, ça.
Ah oui.
Donc le club qui a 60 ans, c'est un club historique, quoi, évidemment.
Voilà. SPAC.
Donc ça, il fallait trouver une solution.
Et c'est votre fille qui a l'idée de dire, et si on faisait jouer les filles? Et pratiquement la première à lever la main, c'est vous, Céline Salet, qui êtes l'épouse d'un des joueurs.
Star. Et la trésorière.
Et la trésorière du club.
Ouais,
ce joueur qui est interprété par Guillaume Wix.
Ouais.
Et c'est vrai que je joue un personnage qui a un peu une grande gueule et qui est un peu motivé, voilà.
Ouais, non, qui est très motivé parce qu'elle prend non seulement elle prend les choses en main, mais elle risque évidemment de déstabiliser. C'est ça qui est extrêmement drôle dans le film, déstabiliser les rapports qu'il peut y avoir dans le couple. C'est-à-dire, c'est elle qui lui dit ce qu'il faut faire à la maison. Et on voit ça dans la bande-annonce, c'est pour ça que je peux le dire. Avec ouais. je t'ai tout marqué sur un post-it.
Voilà, elle lui dit parce que d'habitude il ne sait pas.
Enfin, les rapports sont déjà déstabilisés.
La charge mentale.
On a un vrai problème dans ce couple.
Oui, il y a un déséquilibre.
Charge mentale. Putain, ce mot, j'ai entendu autant souvent parler
incombe.
De charge mentale.
Bah oui, parce que c'est ça dans le film.
Il faut
bien s'en rendre compte. C'est là où les rôles sont totalement inversés. On voit alors Calamy qui dit non, mais je peux pas là parce que je vais au foot. Et l'ex-président, hein, puisque c'est le rôle que joue son mari, lui dit le quoi? Tu sais, le foot, là où tu m'emmènes sans me poser la question tous les dimanches. Et voilà, et tout justement bascule, y compris évidemment la tête des joueurs de foot qui se retrouvent face à des filles en compète. Là, ils sont un peu perplexes.
C'est Frédéric Pelguet qui joue le...
Ouais, le mari de Laure Calamy dans le film.
Exactly.
Une belle équipe, c'est une manière de raconter aussi une belle histoire en se servant des codes genrés autour du monde de football. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la vie de couple justement qui est remise en question. Il y a le rapport de force de l'argent, du président, celui qui a les moyens, celui qui ne l'a pas. Et puis c'est un peu comme dans la Vie est belle de Capra, c'est-à-dire qu'on se demande comment tout ça va finir. Est-ce que c'est l'amitié, le rapport humain qui va l'emporter sur l'adversité?
Et il n'y a pas d'ange gardien, contrairement à La Vie est belle.
Voilà, exactement.
Ouais, c'est un film sur une bande de femmes qui va apporter une solution, inventer quelque chose. C'est aussi un film sur l'invention, sur comment on peut trouver quelque chose, inventer une solution. pour réparer.
Ouais, et puis c'est aussi sur l'émancipation féminine, parce que tout d'un coup, laisser les gamins à la maison, assumer de le faire, parce qu'en réalité, c'est pas non plus une révolution que de pas être 24 sur 24 avec ses enfants quand on est une femme, mais là, l'assumer en disant, en plus, je vais faire quelque chose qui me fait plaisir, je vais monter un collectif, je serai avec d'autres, c'est pas... Il y a une quête en plus qui est en...
Non, mais qui part d'une bonne intention,
absolument.
Sauver le club.
Sauver
et
le club, sauver la ville.
La connerie des maris.
Voilà, exactement.
C'est le club et c'est la ville aussi, c'est tout d'un coup, bah, les filles ne sont pas celles qui sont dans les tribunes en train de faire la claque, elles sont les actrices principales de l'histoire.
On va continuer de parler de cette belle équipe, film réalisé, je rappelle, par Mohamed Hamidi. On en parle, mais d'abord...
Ça fait peur, hein.
Les affirmations. Je vais vous distribuer
des papiers. Alors, je continue à parler parce que t'es plus derrière le micro.
On t'entend plus.
On vous distribue des papiers.
Quelle
délicatesse. Il y a des affirmations et
la charge mentale, il l'a pas, lui.
On va commencer par Céline. La première. Alors,
vous voulez un petit café? Alors, parce qu'il sert pareil.
Je veux juste préciser. Juste préciser une chose à l'équipe et aux auditeurs. Vous avez chacun deux papiers. Ça veut pas dire qu'il y a forcément une vraie, une fausse. On est bien d'accord. Les deux peuvent être vrais, les deux peuvent être fausses dans ces affirmations. Céline, je vous en prie, lisez le premier papier sans même savoir lequel des deux vous...
Alors, j'ai connu mon plus grand stress en passant des essais d'Inglourious Basterds devant Quentin Tarantino.
Alors, deux questions, chacun. Marina, tu commences ?
Est-ce que c'était... d'accord.
Est-ce que c'était Inglourious Basterds ? Oui.
Pour quel rôle, évidemment ?
C'était pour, dans Inglourious Basterds, le rôle qu'a joué Mélanie Laurent.
D'accord.
Leïla ?
Non, je passe mon tour tout de suite.
Daniel,
Vous êtes toujours fâché avec Mélanie Laurent?
Ouais, toujours.
Tom Villa,
le casting, vous l'avez passé face à Quentin Tarantino ou c'était une vidéo qu'on envoie dans ces cas-là aux États-Unis?
Ouais, non, c'était un premier tour avec un
directeur de casting.
Oui, racontez-moi, c'était quoi la scène? Fallait jouer quoi en fait? C'est quel passage d'Inglourious Basterds?
Il y avait un moment.
Des nazis.
Il y avait. Il y avait la scène finale, enfin la scène dans le théâtre, et il y avait aussi
une impro sans texte. Une grande douche, c'est ça la scène finale.
La scène finale.
Non, pas du tout.
Je bluffe, j'essaye.
Tout le monde l'a vu le film.
Non, peut-être pas.
J'ai trouvé ça très rusé de la part de Léa.
C'est très rusé, mais du coup, j'ai voulu l'aider en disant mais non, il n'y a pas la scène de la croix.
C'est pour voir si elle me dit oui. Bon,
en tout cas, ça marche avec Nagui, le bluff. Tu peux y aller. Maintenant, mais viens pas te douche.
Mais non, mais je voulais vraiment l'aider. Je dis mais pourquoi elle parle là-dessus, Marina?
Pourquoi c'était tellement le stress? Vu que tu veux qu'on n'était pas en face de Tarantino tout de suite.
Non, mais c'était fou quand même.
Ah ouais.
Bah oui, parce que
les enjeux quoi.
Bah oui, le rêve de ça, de
une dernière question. Daniel Morin.
Non, mais moi je sais déjà.
Ok, d'accord.
Je suis sûr que c'est faux.
Ouais, c'est faux. Ouais.
C'est faux. C'est totalement faux.
C'est faux.
Je pense que c'est
moi, je la trouve forte, Céline Zavette, du coup, si c'est faux.
Alors tout le monde dit faux.
Non, mais vas-y.
Non, moi j'ai un doute,
Je pense que c'est vrai, personnellement.
Toi, tu dis que c'est vrai?
Moi, je sais pas pourquoi je la sens capable.
Alors attends, c'est intéressant. Donc vous êtes trois. Non, mais parce que si Kade dit que c'est vrai.
Tu peux,
parce que t'es pas au courant de la.
En plus, moi je sais pas du tout.
Voilà. Donc.
Non, parce qu'elle a fait Clint Eastwood, mais elle a fait.
Bah, c'est un film que je n'ai pas fait, puisque je l'ai pas fait.
Oui, mais sauf que
j'ai pas eu les essais.
Ah non, mais d'accord, ça n'empêche pas d'être.
C'est les essais.
Ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être vrai, mais avec quelqu'un d'autre et pas avec Tarantino. Voilà.
Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Céline Zavette?
C'est faux.
Mais quoi, c'est faux, vous l'avez?
Quelle comédienne.
C'est faux, bah non, j'ai jamais passé d'essai.
Bon, voilà.
Mais elle a été contactée.
Ouais. Non.
Ah, pardon. Ah, bah,
ouais. J'ai entendu parler de ses essais, ça m'a mis en transe, et en fait, non, personne ne m'a appelé. Voilà. C'est ça qui était extraordinaire.
Ah, vous aviez envie?
Bah oui, pendant une journée et demie, c'est comme si j'avais pris de la coke, j'étais comme ça, ouais. Des essais et tout ça pour le film de Tarantino et jamais personne ne m'a contacté. Je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie, je vous jure que c'est vrai.
Je vous crois.
Mais je lis beaucoup. Parce que j'imagine que c'est comme ça.
C'est faux.
Je vous jure que c'est vrai.
Cad, Merad, le papier que vous voulez, allez-y.
Celui-là.
Ouais.
T'es sûr?
Vous avez compris le principe,
Cad? Alors.
Ça y est, t'as compris maintenant.
J'ai chanté la Cucaracha en duo avec Elvis Presley.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas
ce qui est écrit, mais ça va, je peux inventer.
Je peux prendre du plaisir.
J'ai vu des regards, là. Tom et Daniel, ils ont fait « Oh mon Dieu !» Faut qu'on pose des questions là-dessus.
Non, je compte.
Mais j'aurais bien aimé. Je contre.
Surtout la Cucaracha.
Ah oui. N'importe quoi.
Pourquoi pas Show Cacao?
La Cucaracha.
Show Cacao avec Elvis Presley.
Voilà. Non, l'information qui est écrite sur la feuille, je vous promets, j'ai longtemps conduit la voiture de ma mère sans avoir le permis.
C'était quoi comme voiture?
Une GS Basalt.
Et vous aviez quel âge?
Eh ben, j'avais, je devais avoir 17 ans, juste avant le permis. Juste.
Daniel,
elle était au courant?
Oui.
Leïla,
longtemps, ça veut dire dans l'affirmation, ça veut dire combien d'années?
Ah bah là, ou bien longtemps avant le permis en fait. Mais je n'aurais pas dire, mais attends, ça fait longtemps quand même.
Bah oui,
non, il y a prescription, 37 ans, donc.
ah, fait, 37 ans sans permis.
Oui. Non, ça a duré une petite année peut-être au moins quand même.
Sans permis.
Sans permis. Ouais.
Marina,
est-ce que vous êtes fait choper?
Bah non.
Non, mais pas par votre maman, mais les flics, les voisins, les quelque
non,
chose.
Non, mais
quoi.
Le jour de mon permis, ouais. On m'a arrêté. Parce que j'avais pas mis mon 90, que nous on mettait des 90 à l'époque.
Ouais.
Je me suis fait arrêter le jour où j'ai eu mon permis.
Qui correspond au A de
voilà.
Maintenant.
Mais vous rendez compte, c'est-à-dire que le jour de mon permis, donc j'avais mon permis, donc ça va, j'ai pas eu de problème.
Daniel,
combien de délits de fuite?
Ah non, mais pas de délits de fuite.
C'était pour Tom. Apprendre ou alors c'était en cachette, on volait la voiture de maman
Je ne volais pas, je demandais à ma mère si je pouvais lui prendre la voiture pour aller au centre commercial, pour aller en bas, pour aller au rugby, pour
faire
des petits trajets.
Est-ce que tu faisais des courses pour elle? Est-ce que tu l'aidais?
Céline.
Ah ben, j'allais en course avec elle et je conduisais quand on partait en course ensemble.
Ok, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
C'est vrai, oui, c'est vrai.
Vrai, vrai. Ah, Léla.
C'était pas une GS Basalte.
Léla a un doute.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, tout le monde dit que c'est vrai.
Mmh. Bah, c'est vrai.
C'est vrai. Ouais. Bravo l'équipe. Alors.
Bravo. Merci à maman.
Non, mais ce qui est fou, c'est que maman accepte que vous conduisiez sans permis.
Je l'ai embobiné, j'ai entourloupé comme. Comment?
Ça l'aidait, c'était mignon.
Bon, en tout cas, ça m'a permis d'avoir mon permis du premier coup. C'est pas un conseil que je donne.
3000 km au
je faisais des trajets. Alors, c'était des trajets. Je prenais quand même la National 7 pour aller. J'habitais à Ris-Orangis, j'allais à Évry, au centre commercial de la Gare. Ultra dangereux.
Non, mais vous étiez
quand
autonome.
Pense...
C'est l'équivalent de la conduite accompagnée. Hein. Franchement, en vrai, c'est pas.
Oui, avec personne.
Parfois, personne t'accompagnait, d'accord.
J'allais tout seul.
Vous diriez ça parfois. Il était double, mais dans sa tête.
Non, mais c'est des trucs, évidemment, que je regrette terriblement maintenant.
Menteur.
Non, mais dire,
ça c'est faux. Ça c'est faux.
Quand j'ai annoncé ça à mon père, il a engueulé ma mère.
Ah, c'est-à-dire que votre maman était au courant, mais pas votre papa.
Ah non, mon père, non. Sinon, il me.
Ça c'est mal.
Mort. Mais il était gendarme.
Oui, mais sauf qu'en attendant, il faisait pas le taxi pour vous. Ça lui laissait plus de temps. Il était tranquille.
Ma maman, d'accord. Ouais.
Mais charge mentale en moins, ça.
Céline, bravo, ça allait être votre deuxième petit papier. Qu'est-ce que c'est?
Non, est-ce que c'est le même ou est-ce que... Ouais, voilà.
Oh bah t'es vraiment...
Ah, elle a pas réussi à ouvrir le bon papier. Alors, j'ai escaladé les 4000 marches d'une montagne en Chine.
C'était bien?
C'était dément, ouais.
C'était où?
Vous êtes arrivé dans
c'était
quel
en
état
Chine.
C'était où en Chine?
Dans les montagnes jaunes.
Daniel.
Les montagnes jaunes, oui.
Vous êtes arrivé dans quel état en haut?
Ça allait, je crois.
Ça allait?
Ouais.
Tom?
C'était lors d'un voyage classique ou c'était vraiment le but du voyage?
C'était lors d'un voyage d'école, parce que j'ai fait du chinois pendant 3 ans au lycée et on a fait 3 semaines de voyage en Chine.
Leïla,
vous étiez où au lycée pour faire du chinois?
Au lycée Michel Montaigne à Bordeaux.
Ah bah voilà.
Tom,
vous pouvez nous dire un petit truc en chinois pour voir? Bonjour.
Ni hao, ni jiao, shi me ming zi.
Ah ça calme.
Ah ouais, ça calme. Daniel, une dernière question.
Est-ce que vous avez fait d'autres exploits de la même sorte, c'est-à-dire monter ou les marches de la Tour Eiffel ou quelque chose comme ça?
Et je pense sincèrement que à la Tour Eiffel, il y a moins de 4000 marches.
Bien
4000
sûr.
Marches, vous vous rendez compte?
C'est toute la journée, 4000 marches.
4000 marches, waouh. Leïla, pas d'idée. Okay.
C'est vrai.
Gad, qu'est-ce que
t'en... Ah, j'ai pas goûté, moi.
Ils sont fous.
Goûté, c'est pas mon moment, je m'en fous, moi.
Non, non, il y a 1600 marches.
Non, moi, je crois. La Tour Eiffel, 1600.
Non, moi, j'y crois. Comme de toute façon, je crois à tout. Quand elle fait quelque chose, Céline est une telle actrice.
C'est gentil.
C'est une belle actrice, c'est une bonne actrice. Donc
moi, j'y crois.
Cette fois-ci, je dirais vrai.
Oui, oui, vrai.
On dit vrai.
Oui, c'est vrai.
4000 marches. Bah, déjà, on vous avait dit d'avoir monté 4000 marches, en tout cas.
Et d'être resté vivant.
Et puis d'avoir fait 3 ans chinois, quoi.
C'est toute la journée. C'est toute la journée, une marche de toute la journée, donc ça va.
Alors,
c'est
pardon,
pas
pour reprendre la question de Tom, le côté non, je suis arrivé en haut, ça va, ça allait. 4000 marches, ça peut pas aller en montant 4000 marches.
Si, franchement.
Ça dépend comment elle monte, quoi.
Oui, c'est pas des pentes très raides, hein. Et puis surtout, c'est un chemin, en fait. C'est comme une grande marche toute la journée.
C'est comme si, ouais, c'est ça.
C'est toute la journée.
En montagne pendant une journée,
ouais,
en montagne,
exactement.
C'est ça. Et alors, enfin, quel est le sentiment quand on arrive tout en haut?
Et puis, j'étais jeune à l'époque.
Quand on arrive tout en haut, c'est un sentiment de...
C'est assez fou, c'est-à-dire, plus on monte, plus c'est beau. Il y a aussi des rochers en forme d'animaux, il y a un rocher en forme de poisson. Non, mais c'est un peu fou.
Le manque d'oxygène, ça fait vraiment des trucs. La drogue, il manque d'oxygène.
Non, pas du tout, c'est un lieu touristique, donc c'est avéré. Les gens viennent voir les poissons. Le rocher poisson.
Ah. Est-ce que de parler chinois vous a tendu des perches dans votre métier, par exemple? Est-ce que vous avez joué en chinois déjà ou jamais?
Non, j'adorerais.
C'est vrai?
Ouais.
Mais est-ce que votre agent communique auprès des producteurs
chinois qui viennent le voir régulièrement?
Oui. Non, parce que c'est un marché incroyable. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'actrices capables de jouer un rôle en chinois. Et en plus, je pense que votre physique occidentale pourrait.
Vous avez un physique à jouer en Chine.
Non, mais j'ai pas tout donné encore. C'est ça qui est bien. J'ai pas encore tout donné. Il me reste quelques cartes sous la semelle.
Mais il n'y a pas de coke là-bas.
C'est bon. CAD. Oui. Allez, Dany Papier.
Une vraie ou une fausse?
Je sais pas, on verra bien ce qui se passe. L'affirmation.
Suspect.
Allez-y, Maître Nadjar.
Ah, alors j'ai commencé ma carrière sous le nom de François Béguin.
Pourquoi ?
Ah, pourquoi ?
Oui.
Parce que.
parce que
je fais ce que je veux. Parce que j'ai un peu été traumatisé une fois par à cause de mon nom qui était Cadour Mérade.
C'est un très joli nom.
Merci Laïla Cadour.
Laïla Cadour Mérade.
On a une annonce à faire.
Voilà. Pourquoi Béguin?
Béguin parce que c'est le nom de jeune fille de ma mère, Jeannine Béguin, celle qui m'a filé sa bagnole. La même, la ouf, la déglingo, Jeannine Béguin.
Et donc Jean Béguin?
Non, dis deux questions, tu rigoles, tu monopolises ou quoi?
Est-ce que c'était sur WFM?
Ah non, c'était bien avant WFM. Attends. Non, oui, peut-être en même temps, oui, remarque.
À quel moment vous avez décidé de vous appeler François Béguin?
Eh ben.
Il te dit.
Non mais vraiment. Oui, non.
Après avoir eu une petite micro-humiliation, j'ai eu peur. Alors, je raconte, j'ai le temps de raconter.
Ouais, bien sûr, vous avez le temps de mentir.
C'est très long.
Hein.
On est en 1954. La peste vient de ravager. j'étais dans un cours de théâtre. Je jouais le misanthrope de Molière. Je jouais l'Alceste, le rôle principal. Et il y a des producteurs de France 3 qui était venu pour me voir, pour incarner François Ier jeune, à la télévision, à l'époque. Sur le tableau de l'école, il y avait...
Me dis pas qu'il y a un truc raciste, Cadmérade ne peut pas jouer...
Tu vas voir.
J'ai déjà
raconté cette histoire, c'est horrible. J'étais chez Jacqueline Duc, un cours au centre du Marais, il y avait une ardoise avec la distribution, donc il y avait marqué Alceste, Cadour. Et les deux types de France 3 sont venus et ils m'ont vu jouer, ils ont trouvé ça super. Et en sortant, ils ont vu mon nom, ils ont dit mais c'est pas possible.
Mais non.
Eh oui, messieurs, dames.
Et vous n'êtes pas dit.
Peut-être j'en rajoute un peu, mais c'était pas loin. Hein.
Et alors vous n'êtes pas dit François Béguin, ça sonne quand même assez mal pour faire carrière.
C'est le nom de sa maman.
Mais
François.
Bah, François Béguin.
Tu veux dire quoi, Mohamed Béguin?
Non, mais
oui. C'est ça.
Ok, je change de nom.
Et bon.
50-50.
Et mon papa qui s'appelle Mohamed et qui s'est longtemps appelé Rémi pour justement que ça passe mieux, je suis désolé, hein,
mais c'est dans le
que ça.
Non, mais c'est
dans l'Italien. C'est l'histoire de l'Italien, le film qu'on a fait. L'Italien, c'est Barzotti.
Mais dans l'Italien, c'est ça.
Donc j'ai un peu flippé et je me suis dit, je vais être cantonné à des rôles plutôt d'épicier. À l'époque, c'était beaucoup des épiciers qui jouaient les Arabes. Je sais pas pourquoi. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur.
Les Arabes qui jouaient les épiciers. Les Arabes qui jouent les épiciers.
En fait, là, je suis déjà en train de raconter déjà.
Non, mais arrête-toi. Alors, vrai ou faux?
Malheureusement vrai, je pense.
Malheureusement vrai.
Ouais, Tom, vrai aussi. Malheureusement.
Vrai aussi. Marina.
Bah, toute l'histoire vraie, je sais pas.
Non,
si
réponds,
c'est...
on ne demande pas de raconter.
Je sais
ta
pas
vie.
Si c'est le bon pseudo et je sais pas s'il a vraiment changé de nom.
Moi, je pense que
toute l'histoire est vraie, mais je suis pas sûr qu'il ait pris un pseudo.
Il y a un vrai fond de vérité.
Je peux vous dire, le pseudo, je peux vous dire. François Béguin a vraiment, entre guillemets, existé.
Ouais, mais je pense que c'est pas c'est un personnage, c'est peut-être son premier rôle ou quand il a fallu créer un personnage.
C'est le nom de sa maman.
François Béguin, Jeannine Béguin.
Non, c'est enfin,
la déglingo.
C'est pas une GS basalte.
GS basalte noire avec des rayures rouges, des bandes rouges.
C'est
basalte.
C'est faux.
Moi, je sais.
Ah, ok, d'accord.
J'ai pas répondu.
Donc, alors, je suis perdu.
Il y a deux
vrais de faux. Sympa.
Ouais,
bon, public.
Mais Céline.
Non, elle sait. Vrai, c'est vrai.
Alors, c'est vrai. Mais c'est faux.
Mais voilà.
Ah ouais, voilà. On la sentait. Voilà. On la sentait.
Bah, j'ai pas démarré ma carrière sous le nom de François Béguin.
Donc c'est faux.
Donc c'est faux.
Merci.
Donc c'est faux. Mais parce qu'il y a un mais, ça a duré une journée.
J'ai changé de nom pendant une journée, chez moi, tout seul. Je me suis amusé à changer de nom et chercher des noms. Et j'ai voulu prendre le nom de famille, le nom de jeune fille de ma mère. Je voulais m'appeler Gilbert Béguin, qui était le nom de mon grand-père. Je trouvais Gilbert, ça faisait un peu trop vieux.
O-R-T-F.
Gilbert Duclos Lassalle, mais qui n'a rien à voir.
Ça faisait un peu Gilbert Montagnier.
Ouais, voilà.
Un peu
cycliste. Et donc, j'aimais bien le prénom de François, donc j'ai pris François Béguin. Mais ça a duré une journée, puisque en fait, j'ai finalement dit, tant pis! Je m'en fous, vous verrez, je m'appellerai Cadour. Bon, finalement, j'ai quand même coupé le nom en deux, parce que...
Ça s'est fait ou pas?
De quoi?
Le tournage France 3.
Mais jamais, non, jamais.
Non, ça c'était une bêtise.
Mais c'est pas la seule raison pour laquelle ils m'ont pas choisi. Mais c'est vrai qu'il y a eu, j'ai senti qu'il y a eu un petit
moment de retrait, quoi,
un
de
petit
recul.
Blanc, tu vois, ouais. Le petit côté Cadour. Mais ouais. Je vous jure que c'est vrai. Bon, bah ça a été. Bon,
en fait,
comme
tu
ça
sais,
longtemps.
Tu sais, on me.
Mais c'est pas un problème.
Ça nous aurait fait une archive, c'est con. J'aurais vu dans François 1er.
J'ai eu droit à une étude, savoir est-ce qu'un animateur arabe peut présenter l'émission d'accès à la télévision.
Et le résultat des
études, non. Finalement, je suis un peu à l'antenne. Donc
non, mais même sans passer.
C'était un peu le numéro un, surtout.
Ils ont mais en quelle année ils ont fait l'étude?
Comme quoi, on ne tient pas compte des sondages. Non,
parce que si je dis l'année, on saura la chaîne et qui l'a fait. Oui. Machin. Donc,
mais est-ce que c'est il y a très longtemps?
Mais c'est pas moi qui joue là, maintenant.
Mais,
okay,
d'accord. Mais juste, c'est faux. Non, mais c'est faux.
Juste parce que ce sujet est assez important. Nous, Nagui et certains autres qui ont des origines ou des noms, nous savons s'en sort parce que nous, on est devenus des personnalités. Mais des tas de gens qui souffrent beaucoup plus que nous. Alors qu'ils voudraient juste devenir avocat ou devenir journaliste
ou avoir un appartement. Travail.
C'est tout ce que j'ai à dire.
Ou avoir un appartement.
Voilà, nous,
exactement.
Voilà, nous n'avons plus ni de nationalité ni rien. Nous sommes que des personnalités.
C'est vrai.
Et ça aide quand même.
Céline Salette et Kad Merad, vous jouez donc dans une belle équipe aux côtés de François Béguin, d'Alban Ivanov, de Sabrina Ouazzani et de Laure Calamy,
et de
Guillaume
Gouix,
entre autres. Ouais, c'est ça. Il y a un casting détonnant. Et il y a surtout beaucoup de football féminin dans ce film. On voit Sabrina jouer grave bien. Mais comment elle joue,
elle
c'est la
tellement
folie.
Forte, ouais.
Alors que vous, Céline, balle au pied.
J'ai joué mal, vous le diriez. Vous diriez ça.
Non, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'images de vous, balle au pied.
Ah oui. Ben, c'est parce que tout est dans l'intention.
Dans le positionnement sur le terrain.
D'abord, on n'a pas fait la même école de jeu d'acteur. Sabrina, moi personnellement, je suis beaucoup plus dans l'intériorité. Donc, c'est vrai qu'il faut me filmer, mais de près. Parce que de loin, c'est moins bien.
Non, c'est faux. Voilà. Non, mais blague à part, elle a des passements de jambes, elle fait des dribbles. Des,
Sabrina,
ouais, des jambes.
Ben elle avait du ballon, comme elle le raconte. Elle serait là, elle le raconterait mieux, mais elle raconte souvent que c'était une sorte de garçon manqué et que pour faire plaisir à son père, à son frère.
Elle jouait au foot avec les.
Elle jouait
au
foot avec la famille à la Courneuve, comme elle raconte. Elle raconterait mieux que moi, mais bon, comme on l'a entendu toute la.
Elle est plus jolie surtout.
Que.
Mais
que
ça
toi
va.
Que moi,
pas. Oh,
ah oui, largement.
Ouais.
Alors que Céline, que Laure et que les autres ont dû apprendre, mais elles ont appris à jouer au football. Elles ont été coachées par
Aurélie Ménard
et Corinne Petit, qui sont deux grandes. Pour ceux qui connaissent le football féminin, ce sont des légendes. Elles ont vraiment appris à jouer au foot. Et la première fois que j'ai vu moi l'équipe devant moi jouer, j'étais bluffé, quoi. Franchement, je voyais un vrai match de foot. Parce comme que quoi, c'est pas difficile de jouer au foot. Tiens, prends ça, monsieur.
Alors justement, tiens, Mélissa Plaza, qui est une ancienne joueuse internationale de foot, qui a joué à l'Olympique Lyonnais, à Guingamp, à Montpellier, qui a joué en équipe de France aussi, sera là tout à l'heure pour que nous parlions de l'essor du football féminin, parce que maintenant ça devient carrément, il y a eu des cartons d'audience, et tant mieux, autour de la Coupe du Monde de football, et il y a des matchs encore qui restent impressionnants. Mais pour en revenir au film, ce n'est pas que... on peut très bien apprécier le film sans forcément aimer le football, c'est surtout une histoire d'une aventure humaine et des rapports qu'il y a dans cette espèce de petit village ou cette petite ville de province du Nord.
C'est l'histoire d'une équipe qui se forme. Il a ce talent, Mohamed, d'avoir su peindre comme ça une dizaine de personnages. Il y a quand même ceux qui sont croqués. Il y a une variété de
caractère,
d'humanité, ouais, de caractère hyper belle, hyper riche. On les suit tous et ils s'accrochent comme des petits atomes pour former cette équipe. Et puis il y a cette confrontation, c'est vrai, entre les hommes et les femmes, qui est au cœur du film, mais qui est belle, elle est abordée de façon ludique. Il décapsule comme ça un peu les clichés qui nous entourent. Et puis, c'est cette misogynie ordinaire, je dirais, qu'on subit assez quotidiennement, je veux dire, mais de manière relativement tranquille. On finit par avoir l'habitude.
C'est ça qui est triste, ouais. il ne faut pas s'habituer.
Mais en rire, c'est bien, parce que ça permet comme ça de nous éveiller un peu sur ce qu'on ne voit plus.
Ouais, puis ça souligne justement ce qui se passe, et dans ces rapports-là, la notion d'un couple qui, tous les dimanches, fait quelque chose sans plus que le mari ne demande son avis à l'épouse.
Ouais.
Par exemple, il n'y a pas que la charge mentale du travail à la maison ou de s'occuper des enfants ou à l'école.
Il y a tout ce qui est comme ça un peu atavique et qu'on subit, qui existe de façon inconsciente.
Et l'épouse n'est pas non plus celle qui monte le chemin parfois. C'est-à-dire qu'elle accepte de lui répondre 15 fois au téléphone pendant son entraînement de foot. Elle pourrait aussi lui dire « t'es gentil, mais t'as deux mains et tu te débrouilles ».
Ouais, démerde-toi, ouvre le tiroir, tu vas finir par trouver où se trouve l'ustensile.
Pour, oui, pour prendre un peu la défense des garçons de temps en temps, parce qu'on est toujours en train de les acculer et de leur dire que...
Elle se pose la question de l'équilibre dans son couple. Elle ne veut pas non plus que toute cette aventure-là bouleverse son couple. Elle veut garder sa vie de famille, elle est encore amoureuse de son homme.
Bien sûr, c'est juste au moment où il s'en va lui aussi, il renonce, il démissionne.
Ce qui n'est pas le cas de Laure Calamy avec son mari, où là les rapports sont beaucoup plus tendus. Ouais, là, c'est la guerre. Ouais,
ils
vont faire chambre à part. Et puis il y a Alban Ivanov, Mr. DJ, avec...
Sens du timing.
Ouais, le sens du timing. Un peu comme là. Tellement drôle, tellement drôle Alban Ivanov, tellement décalé, tellement amoureux aussi. Hein. Il est fou dingue de Cindy.
Et on le comprend.
Il par Manica Oxia,
Il fait des jus d'orange ou des jus de citron au bord de la touche. Et systématiquement, pendant l'équipe joue, c'est bravo Cindy, mais qu'elle joue pas, qu'elle touche le ballon ou pas. Non, c'est extrêmement drôle, c'est touchant. Et puis, il y a, on peut pas dévoiler évidemment la fin, mais il y a une vraie montée en tension, en puissance, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cadre du championnat, c'est-à-dire qu'on a envie d'être au dernier match, on a envie de voir ce qui se passe.
Ouais, c'est ça. Il le faut, ça devient l'enjeu principal à la fin. Et il y a un match à la fin qui est magnifique, d'ailleurs. Mais bon, on ne peut pas dévoiler la fin, parce qu'évidemment, ça serait trop simple que ça se termine comme on imagine. Comme on a envie que ça se termine.
Comme ça.
J'ai rien dit.
Il a rien dit.
Ça se termine comme on aimerait que ça se termine.
Mais ça ne se termine pas comme on pense que ça va se terminer. Mais on aime comme ça se termine.
Évidemment. Voilà.
Quand on apprend que je suis un X-Men à la fin, on se dit
Wolverine, on l'a pas vu venir. Ouais.
Wolverine, gardien de but, c'est pas évident.
Une belle équipe, ça sort ce mercredi dans Deux Dodos au cinéma et ça s'appelle
Une belle équipe.
Ça me fait rire, c'est pas.
Tom Villa est maintenant sur la table.
Pourvu qu'il y a Tom Villa. Vous savez pourquoi grâce à qui il est là, Tom Villa?
Oui. Je rigole, je sais.
Tom Villa, il est expert en rien, tu sais, Saccade.
Oui, je sais. Et du coup, je suis assez bien placé pour parler de plein de sujets.
Exactement. Et Tom, en regardant ce film, vous avez constaté que l'égalité homme-femme, femme-homme avance petit à petit.
Oui, alors tout n'est pas parfait, mais voilà. Bon, si on prend le sujet du film, c'est des femmes qui remplacent leur mari au foot pour sauver l'équipe du village. Il y a 30 ans, ça faisait marrer les Français d'imaginer des femmes jouer au foot. Ça aurait pu paraître même dans les paroles d'une chanson de Michel Sardou. mais aujourd'hui, le foot féminin, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, ça fait des audiences dignes d'une allocution de Kim Jong-un à la télé. Coréenne, c'est formidable, tu vois. Donc en fait, on s'est juste rendu compte que ce que les gens aiment, c'est le foot. Peu importe qui pousse la balle, un homme, une femme, ça sera un raton laveur, une taupe, une fougère, il y aura des gens devant leur télé avec des chips et des bières, tu vois. Mais il faut arrêter d'être choqué. C'est vrai, quand on évoque l'égalité femme-homme, homme-femme, j'ai l'impression d'avoir de la nitroglycérine entre les mains. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui freine quoi que ce soit. D'ailleurs, mesdames, si vous voulez prendre le pouvoir, vous gênez surtout pas. Moi, je me fais déjà dominer par ma copine à la maison. Alors, franchement, moi, ça change rien pour moi. C'est vrai, je suis pour qu'il y ait une femme présidente de la République. Juste, pas en 2022.
C'est ça.
Parce que la seule qui est bien placée, qu'on connaisse, elle pourrait faire regretter les hommes. C'est sûr que... Mais oui, c'est vrai. Oui, je suis pas une femme. Bien sûr que j'ai jamais vécu le quart du dixième de ce qu'ont vécu les femmes. Et si on n'a plus le droit de parler de ce qu'on connaît pas, alors autant fermer les chaînes d'infos de la TNT tout de suite. On part de loin, mais les choses avancent. Alors aujourd'hui, ça choque plus de voir, je sais pas, une femme qui conduit un bus. Enfin si, juste, parce que là, c'est la grève. Donc n'importe quoi qui roule en ce moment, ça roule. Mais non, mais c'est formidable. Bon. Mais pour qu'on puisse dire qu'il y ait vraiment une égalité entre les femmes et les hommes, il faudrait aussi que les hommes puissent faire des choses réservées aux femmes. Et oui, parce que, mesdames, vous pouvez faire tous les métiers du monde, ça j'en suis convaincu, mais l'inverse n'est pas vrai. Il y a plein de métiers qu'on peut pas faire. Par exemple, tu veux sortir un soir avec ton mari, tu veux faire garder les gosses, et la nounou qui arrive, c'est Didier, 53 ans, 115 kilos, un bouc et des bretelles, et il te dit, moi, j'adore garder les enfants tard la nuit quand les parents sont pas là. Et surtout, prenez votre temps. Ben non, tu ne lui fais pas confiance. Donc, l'égalité entre les femmes et les hommes n'existera peut-être jamais à 100%. D'ailleurs, pourquoi est-ce que dans les pubs, pour les gels douches, on voit pas des hommes à moitié à poil en train de se savonner sous une cascade? La femme, elle est présente dans 63% des publicités pour l'entretien du corps, ça veut dire qu'on pue, c'est ça? Et puis la ménagère de moins de 50 ans, pourquoi ça serait pas un mec? Moi aussi, j'ai envie de me sentir séduit par les marques, c'est terrible. Alors tant qu'il y aura des petits rires quand un garçon dira que son rêve, c'est de devenir champion de GRS, on n'aura pas une vraie égalité non plus. Allez, bonne émission.
Merci, Tophila. La bande originale.
Nagui. Il a pas tort, il a pas tort.
Si, parce que moi, ma nounou, c'était longtemps Martin.
Ah,
après, mais il n'avait pas des bretelles et un bouc.
Là, ce qui gênait, c'était plus le physique, à mon avis. Que,
les bretelles. Méfiez-vous, les bretelles.
Mais là où, malheureusement, Tom n'a pas tort, c'est que les agressions sexuelles, généralement, même majoritairement et tout le temps, sont faites par des hommes.
Bien sûr, des femmes.
Ou sur des garçons, mais en tout cas, sont faites par des hommes.
Et en tout cas, on te retrouve en spectacle, Tom, au République. Cad va venir te voir les mercredis et les vendredis à 21h30.
À la fin de la manif,
tu peux venir.
T'arrives à Répu. Tu poses un bon
bras. T'es bien placé, toi, il est bien ton théâtre.
Super. Bah, on a hésité entre là et Nation, et puis bon, on s'est dit non, et plus, c'est quand même plus central.
J'ai vu ton affiche, c'est très chouette. Pardon.
Tiens, on parlait de violence conjugale avec Tina Turner, malheureusement.
Là, oui.
Et l'un des exemples, ça fait partie de la BO.
De
film. De votre film.
Du film.
De quel film de quoi vous parlez? D'une... Qui êtes-vous?
Ça aussi, ça fait partie de la BO.
Ouais, mais Mohamed est très... C'est un musicien, Mohamed.
C'est Ibrahim qui a fait la musique.
C'est Ibrahim Malouf qui a fait la musique du film.
Oui, mais ils n'ont pas voulu nous la donner, donc on n'a pas pu la jouer.
C'est pas vrai.
Désolé.
Mais pourquoi faire? Bah,
mais je ne sais pas. Pour la garder, pour la garder pour eux.
Je crois qu'il t'aime pas. Il m'a dit qu'il t'aimait pas.
Ouais, ça c'est clair. Ça c'est sûr.
C'est pas les Égyptiens, il m'a dit. C'est un Libanais, lui. Ça part en couille.
Il y a toujours une tension. C'est qui est plus intelligent que l'autre? C'est toujours, c'est ça le problème entre les Libanais et les Égyptiens. Ce film est votre première comédie, Céline Zalet. Je sais que systématiquement on l'évoque, on vous le dit dans toutes les interviews et vous avez besoin de vous justifier.
Et ça doit être... Je me justifie, c'est difficile.
Ça doit être fatigant. Non. Mais est-ce que c'était. D'abord, est-ce que vous avez beaucoup refusé de comédie ou est-ce qu'on vous en a jamais proposé?
Non, on ne m'en a pas proposé. Ah oui, parce qu'il faut un peu d'imagination pour faire ça.
Et pourtant, quand on vous entend à la radio, on vous voit,
vous êtes rigolote.
Drôle,
dans la vie.
Oui, je suis rigolote, mais les gens.
Ils se disent pas.
Voilà. Elle avait raté jusqu'à présent.
Et alors là, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi on vous a demandé
de... Mohamed a de l'imagination et que ça lui a fait plaisir. Aussi, je pense, dans le... comme il y avait beaucoup de rôles féminins, il fallait un peu de tout. Donc, il s'est dit, tiens, je vais mettre Salette, voilà.
Ah oui, c'est-à-dire que...
Ça fera...
Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce... C'est vrai qu'il y a un trombinoscope de toutes les femmes possibles et imaginables. Que ce soit physiquement, que ce soit dans le caractère, dans la douceur ou dans l'agressivité. Il fallait qu'il y ait tous les caractères, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et du coup, non, mais je
casting
pense que...
Casting dans le casting.
Ouais. C'est important de... Dans cette équipe, je pense que... Lui, il a voulu mettre plusieurs couleurs, plusieurs matières.
Il y a Alexandra Roth qui est absolument dingue également dans ce film.
Marion
Mésadorian, Manika Auxir, Mira Tilian ou Tilian, je ne sais pas comment.
Mira Tilian, ouais.
D'accord. Laure Calami, Sabrina Ouazani donc, et Céline Salette qui est aux côtés de Cad Merad, présente à ce micro jusqu'à 12h30. Une belle équipe, c'est un beau film qui sortira ce mercredi au cinéma. La belle Marina Rollman.
Ah oui. Bonjour les amis. Bonjour les amis, hier dimanche 12 janvier, alors que nous étions sur le chemin du retour vers la maison après une promenade et que nous allions une fois arrivés chez nous faire à manger, mon mari m'a dit « Avant de manger, je veux ranger la cuisine parce qu'en l'état, je supporte plus. » Et donc, j'ai eu un petit orgasme là, debout, à l'angle Rivoli, rue Vieille du Temps. Vous verrez si vous passez aujourd'hui, il y a encore une petite flaque.
Mais c'est tellement beau.
Il a attrapé ma maladie. Parce que moi, très souvent, je ne supporte plus un truc qui pourtant n'est ni physiquement douloureux, ni violent. C'est juste des trucs qui m'agacent. Et ça m'arrive fréquemment avec l'état de ma maison. Maintenant, mon mec aussi, c'est tellement bien. Ça me fait tellement plaisir. On parlait d'égalité homme-femme, là, c'est... Alors que quand j'ai rencontré mon mari, son intérieur n'avait que deux raisons d'être, la fonctionnalité et stocker des souvenirs. S'il pouvait manger et de temps en temps avoir accès à des affaires qu'il aimait bien, il était content. Sa maison, c'était un terrier avec des photos. Et moi, j'ai introduit la notion de vitrine de notre âme, parce qu'en tant que femme, t'es sociabilisée à penser qu'il y a une corrélation entre ton apparence physique, l'état de ton intérieur et tes qualités morales. Un trentenaire qui vit avec un matelas par terre et sa table de chevet, c'est un carton de déménagement, on va dire, oh, c'est un grand gamin. Une fille, si sa salle de bain, elle est pas éclatante, on va se dire, de un, je pense, ça sent bizarre dans sa culotte. De deux, je pense, elle a déjà buté des vieux, ou au moins elle les a raquettés, ou, enfin, je pense, il y a eu strangulation au moins. Donc, beaucoup d'entre nous développons le même rapport à notre maison qu'à nos corps. On s'est jamais assez entretenu, c'est jamais assez beau, tu vois, il y a vraiment des standards. Et c'est le deal que j'ai passé avec mon mari en me mettant en couple. Je lui ai dit, ça te branche qu'on passe de ta maison, qui est donc ce petit terrier fonctionnel qui te sert de refuge contre les agressions du monde, à une espèce de test permanent L déco qu'on doit passer tous les jours, qui fait que 99% du temps, on va trouver que c'est crade et que c'est moche chez nous. Et il m'a dit et j'ai dit c'est fait. Et donc voilà. Comme chaque oiseau fait son nid d'une manière qui lui est propre et signifie par sa forme et les matériaux qu'il emploie qui il est. Et ben nous c'est pareil. Notre maison elle s'est peuplée des mille et une choses qu'une femme croit devoir mettre dans sa maison pour montrer qu'elle est une bonne personne, ouais, pleine de goût, qu'elle est soigneuse, attentive, aimante. Mais attention, il y a plein de pièges que les hommes comprennent pas et qu'on dresse comme ça sur votre chemin pour vous faire chier. Ouais. Par exemple, les fleurs séchées, ouais, c'est bien. Ça, c'est précieux, il faut pas les bousculer, pas les abîmer, pas les jeter. Elles sont l'âme de la pièce, le souvenir d'un bouquet passé. C'est élégant, c'est atemporel, la sculpture fragile, la dentelle végétale. En revanche, les fleurs fanées, c'est très mal. Et il faudrait qu'elles disparaissent avant d'avoir existé.
Ça sent mauvais, surtout.
Et ça sent mauvais, et tu t'énerves, parce que tu dis, mais tu vois pas que c'est dégueulasse, il faut les jeter. Bon, mais non, celles-là, elles sont séchées. Celles-là, il faut pas les toucher, en revanche. Ensuite, les objets inutiles, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très, très important. C'est beau, ça, c'est signifiant, ça habille, ça dit la culture, le raffinement, le bien vivre. Tu vois, un presse-papier ancien, une petite sculpture ramenée d'un voyage, cet objet chiné, curieux, beau. Ça, c'est excellent. Il faut pas les jeter, il faut pas les ranger, il faut pas les casser. En revanche, un objet qui n'a pas son utilité dans cette pièce, c'est très mal. Une cuillère au salon, ça va pas du tout. Un chausse-pied à la cuisine, what the fuck is happening? On vit comme des animaux, c'est ça l'idée, il y a plus de règles. Il y a des pièges dans les choses confortables aussi. Les coussins, ça c'est super. Les coussins, il en faut partout, toujours, il en faut toujours plus. L'idée, c'est que si tous les habitants de la maison perdaient leur fonction moteur en même temps et ils se mettaient à ne pouvoir se déplacer qu'en rebondissant d'un truc à l'autre, ils se feraient pas mal dans cette maison. Il faut du mou, du rebondissant, du doux partout. En revanche, des vêtements par terre.
Jamais.
Si on était de mauvaise foi, on pourrait dire qu'ils sont en quelque sorte les housses de coussins de nos corps. Et ben quand même, non, ça marche pas. Ça a beau amortir d'éventuelles chutes, on n'a pas le droit. Et je pourrais en citer encore plein d'autres. Alors évidemment, il s'agit pas d'obsessions innées. Il y a des hommes de tout type, des femmes de tout type. Le cœur du propos, c'est plutôt la cohabitation. Est-ce qu'on habite l'espace en harmonie avec la personne avec laquelle on le partage? Quasiment jamais, et c'est souvent ça qui est assez beau. Hein. Souvent, tu vois un pratique et un rêveur en colocation. D'un côté, un partenaire qui s'étale, qui résonne avec ses affaires en étoile comme ça, alors que l'autre méticuleux, il fait des petites piles partout, tout le temps des piles. Mon père, il fait ça partout. Petit architecte amateur, ils font des petites ziggourates comme ça partout. Il y a ceux qui gardent, il y a ceux qui
même
jettent.
Même des piles avec des trucs à jeter.
Bien sûr,
ça va,
bah voilà, on y arrive. Il y a ceux qui gardent, ceux qui jettent, ceux qui s'attachent au reçu de carte de crédit, d'un ticket de film nul qu'ils ont vu pendant des vacances, qui leur rappelle qu'ils doivent payer une vieille contravention de la voiture de location des vacances. Et puis aussi qu'ils se rappellent de ce petit restaurant de fruits de mer qu'ils avaient aimé dans la crique. Là, ouais, tu sais comment ça s'appelait? Il y avait le pain de. Tu sais, on avait rigolé. Enfin bref. Et puis il y a ceux qui tous les deux mois font du tri et hésitent à refiler un de leurs enfants. Mais quand même, on l'utilise moins, le deuxième. J'ai l'impression qu'on pourrait le donner, il me semble. Il y a ceux qui utilisent tout l'espace d'une pièce et puis ceux qui rangent tout en petits bords comme ça, un truc de surface. Il y a ceux qui perdent des choses. Moi, tous les jours, je sors de chez moi en disant mais clé, mes lunettes, putain, ah non, c'est bon, bisous, bonne journée. Et je m'en vais. Il y a ceux qui voient pas. Il y a ceux qui voient pas le beurre au milieu du frigo, qui remettent pas le couvercle. Il y a ceux qui remettent sur le couvercle. Il y a ceux qui changent pas la poubelle. Il y a ceux qui remettent à côté du sein. Il y a ceux qui arrosent pas, ceux qui arrosent trop. Il y a ceux qui laissent tremper la vaisselle, mais je te jure, je vais la faire demain. Il y a ceux qui voient pas quand il y a un truc au milieu du chemin pendant deux semaines. Et il y a celui qui a laissé le truc en se disant c'est dingue qu'il voit pas le truc au milieu du chemin. Il y a ceux qui pensent à l'autre et qui le voient comme ça au milieu du bordel et qui finalement quand même se disent il est quand même assez super.
C'est fort. Wow. C'est fort, mais là, tous les mecs se disent, heureusement que je suis pas le mari de...
Non, mais je fais pas mal. Aussi. Mais ça veut, c'est venu de lui maintenant, c'est bon.
C'est mignon. C'est
mais c'est vrai ce qu'elle dit, en tout cas.
C'est totalement vrai.
Ouais, mais c'est très joli chez moi.
T'imagines, voilà. T'imagines dans quel état est le mec? Oui, c'est mignon, il a fait l'effort de venir vers toi.
Ouais,
mais il est en dépression. On va reparler football tout
à
l'heure.
Il a fait une grosse
avec Mélissa Plaza. Vrai ou faux? Mélissa Plaza viendra de tout à l'heure parler football. D'ailleurs, je voudrais savoir à quel point vous aimez le foot ou vous aimiez le foot Céline Salette avant ce film. Pas du tout.
Ça n'a pas changé fondamentalement mon rapport au foot. Non, j'adore regarder les matchs de l'équipe de France et j'aime bien le PSG.
Mais jamais au point de jouer.
De jouer, genre, en garçon.
C'est drôle.
Elle suit les matchs du PSG. Le match de hier soir, par exemple,
il n'y a pas que le PSG.
Monaco, c'est ça. Je sais qu'il n'y a pas
le PSG Monaco. Match de folie hier soir. Match de folie. 3-3. J'imagine. 4, vous, le foot, c'est pas trop votre tasse de thé?
Oh, si. Moi, j'ai un père tellement fouteux, qui regarde les matchs avec un survêtement. Donc,
comme tous les sportifs français.
Ah non, mais c'est fou, quoi. Bon, il regarde que Saint-Etienne. Je suis désolé, il n'y a que ça qui. Et Marseille aussi.
Ouais, j'allais dire Marseille.
Oui, oui.
Donc, pas de foot.
J'ai joué au rugby en fait, moi. Je sais que ça se voit plus, mais j'ai joué au rugby. Et donc, je regarde beaucoup le rugby aussi. J'adore le rugby. En plus, je trouve le top 14 super, super haut niveau. Tout le monde s'en fout de ce que
non,
je
non,
raconte
non, pas du tout.
J'ai l'impression qu'il faut que je parle de foot aujourd'hui.
Mais non, mais c'est bien.
Mais j'adore le foot, bien sûr. J'adore les grands joueurs de foot. J'adore voir, si je vous voir dis... Mbappé, et pourtant il est au PSG. Hein.
Si je vous dis la botte impériale.
C'est pas un restaurant chinois, c'était mon surnom quand j'étais joueur de rugby, parce que j'étais très bon, j'avais un très bon coup de pied.
La botte impériale. Ouais, c'est lui qui tirait
les pénalités, les transformations.
Exactement.
T'as joué à la Santiago d'Or.
Ouais. T'étais là, toi?
Ouais.
Oh mon Dieu. Mmh. Mais ouais, ça, c'était au foot. Un tournoi. C'est un tournoi de foot entre animateurs de radio, joueurs de radio, des groupes de rock, les Graisses Vertes, NTM, tu te souviens, il y avait tous ces groupes et tout le milieu monde rock qui se retrouvait à Ris-Orangis, organisé par Didier Veilleux du Plan. Alors, je parle d'une chose.
Et Daniel, au foot, ça fait quoi?
Je me rappelle pas de lui.
Il a un peu le rôle d'Alban.
Je me rappelle pas de lui. Je me souviens, les Négresses Vertes gagnaient tout le temps. C'était une très bonne équipe.
Bon, bref. Parlons musique, tiens, justement, mais la musique que vous écoutiez aussi dans les années 80, c'est Céline Salette, vous avez grandi en entendant. Cette musique-là vous rappelle quoi, Céline?
Non, mais c'est marrant.
Ça c'est Rapperzy.
Ouais, mais ça part de. C'est la même musique.
Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, ou pas?
C'était Good Times.
Oui, bon, d'accord. Oui, d'accord, oui. Pardon, excuse-moi.
Non, vas-y, je t'en prie.
Non, mais il y a battle avec Nagui. Il y a bagarre. Ça a raison, en plus. Il a raison. C'était Good Times.
Céline,
là, ça, c'est chic.
C'est le même groupe. Céline, cette musique vous renvoie à quoi? Non, vous avez grandi avec cette. Vos parents, vous écoutiez ça à la maison quand vous étiez bébé ou quoi?
Non, pas du tout. Non, mais je trouve ça assez symbolique de ces années-là. Ça, c'est un tube qu'on aime bien, mais surtout les années 80, quoi. C'est un peu les années fric, un peu comme ça. C'est un peu les années déglingues, non?
Légère.
Insouciante, ouais, voilà.
Et à quoi ressemblait votre enfance?
Les années 80, c'est. On sort du côté hippie 60-70. Ouais. On n'est pas encore dans les années sida au-delà des années 85.
On est vraiment, je pense, dans les années fric, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Je pense que tout ça monte en puissance à ce moment-là.
Et à quoi ressemblait votre enfance? Parce que vous êtes née en 80, Céline, à Bordeaux, vous avez grandi à Arcachon.
Ouais, j'habitais la maison SNCF derrière la gare d'Arcachon.
Votre père travaillait à la SNCF?
Ouais, il était venu là à Arcachon parce qu'il s'est dit que c'était bien qu'on soit près de la mer. C'est vrai que c'était bien.
Ouais.
On partait pas en vacances, on était là, enfin, sauf au ski, on était bien. J'étais assez tranquille, franchement.
Ouais.
On a un petit bout de jardin. Non, mais j'étais une petite fille très sage, moi.
Comment ça?
C'est vrai.
Ouais, j'ai du mal à vous imaginer ça.
Parce que en fait, c'est le même truc que acteur. Je répondais très bien à tout ce que voulait que ma maman ma maman voulait que je sois comme ça et j'étais ce qu'elle voulait que je sois comme quand t'es acteur
la petite fille modèle, c'est
tu réalises le fantasme de quelqu'un et donc j'étais
donc vous jouiez un personnage de petite fille géniale, exactement
la meilleure et tout ça elle a pas de sentiment, je veux dire, elle est jamais en colère, elle est jamais énervée, elle a jamais de caprice.
Et les arts et spectacles,
du coup ça m'est un peu pété à la gueule.
Qu'est-ce que l'on
parce que finalement j'ai décidé que j'étais quelqu'un
mais tu es resté très gentil et très
j'ai un fou
cool,
comme ça.
Petite fille modèle.
Ah ouais, elle est super. Sur un plateau, c'est un bonheur, cette Céline. Vraiment.
Je trouve que c'est
une actrice extraordinaire.
Ah bah clairement, oui.
Je te l'ai déjà dit. Et sur un plateau, putain, c'est un ange. Vraiment.
C'est quoi un ange sur un plateau? Ça veut dire quoi? Par rapport aux autres, qu'est-ce qu'elle fait pas que les autres?
Je sais pas, elle amène une énergie, elle amène une finesse, elle amène de la grâce et elle rit de tout, elle rit des conneries les plus triviales, plus. Parfois, non, c'est vrai, c'est limite et puis c'est bien.
Mais surtout, c'est drôle.
Elle a même ri à mes vannes, donc t'imagines.
C'est drôle d'être avec toi, avec Alban.
Mais alors, pardon,
drôle,
vraiment, sur un plateau, alors quand on est en plus dans un film comme ça, collégial, avec autant d'acteurs qui se partagent l'importance du film.
Ah oui, c'est un film de troupe.
Qu'est-ce qui se passe si il y en a.
C'est un relou?
Non, le relou, s'il y a quelqu'un qui est perfectionniste et qui dit non, là, franchement, on pourrait la refaire parce que c'est pas bien.
Ça s'appelle un relou.
Oui, ça s'appelle un relou, mais si c'est un perfectionniste, est-ce qu'on peut lui en vouloir de vouloir faire mieux? Non, mais c'est une vraie question sans donner de nom. J'ai pas d'idée en plus.
Non, mais ça veut pas dire non plus que nous on a fait un peu n'importe quoi. D'abord, on était très bien dirigés aussi, donc on était très en confiance. Mais effectivement, on se disait pas toutes les deux secondes est-ce que je peux la refaire, parce qu'effectivement c'est un film de groupe et que tout on peut pas toujours refaire pour l'un
donc,
ou pour l'autre.
Donc par politesse pour le reste du groupe, même s'il y a un truc qui ne va pas,
il faut s'intégrer au groupe. Ça c'est sûr. On est bien d'accord.
Oui, après c'est le travail de Mohamed et lui il a géré ça génialement. C'est-à-dire qu'il a aussi géré le collectif génialement.
Chacun, je crois, s'est épanoui largement.
personne est frustrée dans ce film.
Dans les années 80, pendant que Céline écoutait à la maison le Freak C'est Chic, toi t'écoutais Toto.
Ah ouais. Ah bah ouais.
Ils sont pas mal ces musiciens aussi.
Ah ouais, putain. Eh ouais, ouais. Ah, c'était des modèles pour nous, les musiciens, parce qu'à l'époque, moi, je faisais de la musique et c'était les, on disait, c'était les musiciens de studio qui...
Ce sont les meilleurs musiciens, voilà, qui se sont réunis pour faire un groupe.
Exactement.
Et à cette époque-là, vous montez votre premier groupe de rock.
Oui.
Comment s'appelait-il ?
Oh bah, j'ai eu plusieurs noms. Il y a eu les cravates. Et oui, bah oui, parce qu'il y avait téléphone, donc on s'est dit bon, on peut dire n'importe quoi alors.
Micro-ondes.
Les micro-ondes, les bretelles, tu vois. Non mais la barbichette. Et donc on s'est appelé les cravates. Oui, oui. Et après, plus tard, comme c'était devenu un groupe un peu plus rock progressif, un peu genre Genesis, on s'est appelé Hystérésis. Et Hystérésis, c'est un terme mathématique, c'est une courbe exponentielle.
Ah oui,
je suis nul en maths, hein, mais on aimait bien l'idée. C'était deux serpents qui se rejoignent comme ça, deux cobras qui formaient l'hystérésis.
C'est le cas du C, ça. C'est
n'importe quoi.
En fait, ton père est infirmier.
Non, on était barrés, hystérésis, yes, Genesis, ouais. Yes. C'était dans ce côté un peu rock progressif, mélodieux, tout ça, Rush, enfin ces groupes-là que vous ne connaissez pas aujourd'hui.
Et chante génialement, Kad.
Et initialement, vous étiez batteur et après, vous êtes passé justement au chant. Vous êtes essayé au chant, je crois, en imitant Elvis Presley, dont on parlait tout à l'heure, avec la carioca.
Oui, oui. J'ai fait à peu près le tour de tous les instruments. Pour finir, chanteur, mais j'étais batteur. Oui. C'est surtout batteur.
Et le chant, c'est venu comment ?
Le chant, c'est venu à force d'être batteur, chanteur, ambianceur. C'est-à-dire, j'étais batteur, mais je faisais des chœurs, beaucoup.
Ouais.
Tu sais, quand tu fais des chœurs, au bout d'un moment, tu places ta voix, tu travailles ton...
Il n'y a pas beaucoup de batteurs-chanteurs, à part Phil Collins,
Don Henley, voilà.
Dans Eagles.
Il n'y en a pas trop, non, c'est vrai. Ouais. Et puis donc, voilà, à force, j'ai eu envie plutôt de passer devant, parce que, franchement, la batterie, c'est bien, mais le temps que tu démontes ta batterie...
Ouais. Tout le monde est au bar.
Tout le monde est parti avec les belles nanas. Moi, je me tapais la grand-mère, moi, à la fin. Tu vois, à la fin, parce que je finissais toujours par démarrer la dernière cymbale.
Et c'est là où vous êtes mis à l'harmonica.
Là, j'ai dit, je vais être chanteur.
Harmonica.
T'as rien à démonter. Mais c'est vrai en plus.
Et alors, elle a démonté.
Non, elle a démonté. Je parle de démonter de la batterie.
C'est moi, je crois, les dames.
Oh, ça va pas. Les gars, me dites pas ce que j'ai pas dit.
Surtout quand on s'appelle les Gigolo Brothers.
On s'est appelé les Gigolo Brothers. Et je devais démonter ma batterie. Pour ensuite aller accompagner ces jeunes filles lors d'un bal.
Au Club Med, ouais, c'était au Club Med.
1999, voilà. Céline Salet, vous écoutiez.
Qui a fait ça ?
Oh là là ! C'est qui ça ? Je connais ça déjà.
Britney Spears.
Ah oui, voilà.
De quoi ?
Ah, c'est bien ! C'est ta cam.
C'est ma grosse cam.
J'ai jamais connu cette fille.
Baby One More Time.
Ah bah ouais. Tu dansais
hein ?
Tu dansais pas là-dessus ?
Ah non, pas du tout. Je danse pas, moi.
Énorme succès, planétaire. Puis ça a été repris, il y a eu plein de covers de fêtes.
Regarde les danseurs.
Il se passe quoi fin des années 90 pour Céline Salet ?
Eh bien, fin des années 90, vous intégrez la compagnie du Petit Théâtre de Pain, Céline.
Donc je l'ai intégré, mais 3 secondes.
Ouais.
C'est vrai, je l'ai intégré, puis après je l'ai désintégré.
Non, parce que...
c'était comme ça... C'était une troupe de gens géniaux qui est issue de la fac de Bordeaux 3, fac d'art du spectacle. Autant vous dire, pas le parcours pour devenir actrice de cinéma. Hein, j'avais pas tellement cette ambition-là, j'y pensais pas.
Vous aviez quelle ambition à l'époque ?
Je voulais jouer, moi.
Ouais.
Mais du coup, comme j'étais à la fac, j'ai travaillé avec Georges Bigot qui venait du Soleil. Après, je voulais rentrer au Théâtre du Soleil. Et j'ai fait plein de tours de stage et tout ça avec Ariane Mouchkine qui est merveilleuse, mais elle m'a pas prise. Et puis après, j'ai tenté le conservatoire.
Ouais.
Le déclic est venu comment ? Je veux être comédienne. C'est venu
en fait, non,
à l'école.
Assez tôt, quand j'ai joué, je voulais faire ça tout le temps. Mais il y a une différence entre jouer tout le temps, et j'aurais pu le faire dans cette troupe, le Petit Théâtre de Pain, ça, et ça aurait été ma vie.
Et en faire un métier et en faire... Et,
non, parce que c'est leur métier aussi, au Petit Théâtre de Pain. Ils sont géniaux, mais ils font ça ailleurs, en province, voilà. Et ils sont très forts. Mais j'ai fait autre chose, quoi. J'ai fait autrement. J'ai un peu pris le risque d'aller tenter l'aventure toute seule, un peu.
Non, mais c'est le mot que je voulais entendre. C'est de décider, justement, de quitter ou de faire une carrière, c'est un risque.
Ouais, c'est ça.
Que prennent tous les acteurs et toutes les actrices.
Ouais, il faut à un moment vouloir un peu. Voilà, faut vouloir un minimum. Ouais.
Kad Merad, vous écoutiez-vous à ce moment-là ? I am.
même carte. Le père se lève, le voile.
Il est sur la même étoile.
Et on vous retrouve dans ces années-là avec la grosse émission sur Comédie.
Eh oui.
Où vous avez inventé des concepts complètement cultes. Alors bon, forcément, moi, c'est le Camoulox dans la vie. Encore
Jean-Michel
aujourd'hui.
Jean-Michel à peu près.
Ouais, ouais, des personnages Manitas de l'Habitat.
Oh là là,
D'ailleurs, on fera un live tout à l'heure.
Oui, oui, bah oui, c'est prévu.
Ça vient comment, le Camoulox? Parce que le Camoulox, c'est un truc qu'on se refile de génération en génération. Ouais, faut quand même être d'accord.
Oh, c'est... Quand on faisait la grosse émission, c'était un peu comme vous. C'est une quotidienne en direct tous les soirs à 19h. Faut sortir quatre sketchs dans la journée. Faut les écrire. Il faut les répéter, il faut réviser. Donc avec Olivier, chaque matin.
Avec très peu de moyens, il faut le rappeler.
Très peu de moyens, mais avec une bonne énergie, une bonne ambiance, dirigée à l'épaule par Dominique Farrugia, cette chaîne. Voilà. Et un matin avec Olivier, je crois qu'on venait de voir ensemble Motus, Pyramide, tous ces jeux qu'il y avait à l'époque. Et on se disait, mais on comprend rien en fait dans ces jeux.
Pyramide, j'adore.
Mais oui, mais on avait l'impression que c'était que les gens qui jouent, qui comprennent.
Une secte.
Voilà. Ouais. Et donc on s'est dit, on va faire une espèce de mix de tous ces jeux. Et on a inventé le Camoulox, voilà. Donc qui est un mix de tous ces jeux. C'est très écrit, parce que certains me disent, mais c'était improvisé. Je dis, non, c'est pas possible d'improviser. On écrivait absolument tout. Voilà.
Cad, dans une réunion très sérieuse qui a eu lieu la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, mais quel jeu idéalement tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai répondu, le Camoulox.
Ah bah c'est gentil.
Évidemment. Et alors, tout le monde autour du bureau m'a regardé.
Tu ne peux pas y avoir Marcel Béliveau en opposition. Tu peux pas.
J'adore.
Bah oui, ouais, c'est flatteur, merci.
Allez, ça fait plaisir. C'est vrai, respect. Mélissa Plaza.
T'as dit oui ou pas?
Non, ils ont dit non. Mélissa Plaza, bienvenue à ce micro, Mélissa. Vous avez joué à, j'ai dit Montpellier, Lyon, Guingamp,
oui.
L'équipe de France. On a fait le tour des clubs. Et,
ouais,
et
Lyon.
Et ah ouais. J'ai dit Lyon.
Ah oui, pardon.
J'ai peut-être pas dit dans l'ordre de votre carrière.
Ouais,
mais
c'est pas grave.
En tout cas, une très belle carrière. Vous avez obtenu un doctorat en psychologie du sport et vous avez sorti un livre en 2019, Pas pour les filles, aux éditions Robert Laffont. Ça veut dire quoi? Le foot est pas pour les filles? Non.
Oui,
bah, je crois que c'est... entendu.
Mais c'est ce qu'on vous dit surtout.
Trop souvent, ouais, trop souvent. Disons que c'est un sport un peu sacralisé dans lequel les femmes ont toujours un peu de mal à se faire leur place en fait.
Et vous pensez aujourd'hui encore?
Oui, ouais, je crois que c'est pas encore résolu cette affaire-là. Le mondial a été chouette.
Il y a ça a été un carton plein.
Carton plein.
D'audience, carton de,
ouais.
de popularité. Les stars, les Wendy, les Eugénie, enfin tout a explosé quoi. Alors qu'elles étaient là depuis un certain temps.
Oui, il y a eu un élan assez fou, ouais. Beaucoup d'engouement, mais ça cache quand
moins,
même encore.
Moins pour la sélectionneuse de l'équipe de France, mais plus pour les joueuses. Quoi.
Ouais. J'aborderai pas ce sujet, mais bah, disons que ça cache quand même quelques relents misogynes. Aussi, voilà, j'ai publié quelques chroniques dans Le Monde, notamment une chronique qui s'appelait « Ne dites plus jamais football féminin » et quand je constate les commentaires qu'il peut y avoir à la suite de la parution de cet article, je me dis que tout n'est pas résolu encore.
Vous avez raison de préciser, c'est du foot joué par des femmes, comme il y a du foot joué par des mecs.
Voilà.
C'est ça.
Ouais. Mais disons, quand on parle de foot, on pense aux hommes directement, en fait. Et quand on parle de football féminin, c'est un peu comme si c'était une sous-discipline.
Peut-être parce qu'il y a eu des années et un nombre de matchs incalculables joués que par des mecs. Ouais, c'est ça.
Oui, bien sûr, on a un siècle de retard, c'est sûr.
Mais
on
ça
a
avance, là, non?
Officiellement, l'autorisation de jouer depuis 74. Donc
Autorisation depuis 74. C'est avant, c'était interdit aux femmes de jouer?
Oui, bien sûr.
Et pourquoi interdit?
Régime de Vichy, en fait, on a été interdit
de
jouer.
Il y a des principes à
l'époque. C'était principalement pour freiner l'émancipation des femmes, en fait.
La réflexion la plus machiste que vous ayez entendue sur le football joué par une femme, c'est quoi?
Beaucoup, mais disons, tu joues bien pour une fille. Et la version plus insidieuse ou papillote dorée, c'était « Ah, mais tu joues comme un mec, en fait ». C'est un compliment.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est un compliment. D'accord.
C'est un compliment.
Est-ce que vraiment cette Coupe du Monde dont on parlait a changé quelque chose, ou c'était un épiphénomène parce que c'est la Coupe du Monde, parce que ça se passait en France et que la France a fait rêver jusqu'à affronter les États-Unis?
Il y a eu un vrai effet, un essor significatif du nombre de licences, puisqu'on a eu plus 15% de licenciés à la rentrée.
Donc ça donne envie à des jeunes filles de se mettre à jouer au football et de ne pas se soucier du regard des autres.
Voilà, on s'approche des 200 000, donc c'est une barrière clé. Et puis après, on a eu aussi une augmentation significative du nombre d'éducatrices. Donc on a pris 20% d'éducatrices supplémentaires. Donc signe que ça donne envie aussi d'avoir des sélectionneuses à la tête de l'équipe de France.
Dans le championnat de France, c'est-à-dire ce qui pourrait faire que régulièrement on s'intéresse au football chaque semaine joué par des femmes et pas uniquement pendant les Coupes du Monde ou les Euros, c'est Paris, Lyon, Montpellier qui sont les plus forts, en tout cas cette saison, c'est ça?
Oui, bah, depuis longtemps.
Et
maintenant.
Pourquoi?
Deux décennies.
Parce que leurs présidents y ont cru, parce qu'ils ont investi,
oui.
Ils ont donné les moyens,
et
les autres présidents
sont,
ne le font pas.
Sont professionnels, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de professionnalisation aujourd'hui existante.
Non, mais il y a un mercato, donc ça veut dire que ces présidents-là sont allés chercher des filles qui ont un niveau suffisamment élevé pour attirer du public,
oui,
et avoir des
et
résultats.
Et elles font du football leur activité unique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres clubs, en fait.
Vous pouvez rester encore un tout petit peu avec nous?
Oui, bien sûr.
J'aimerais qu'on continue d'en parler après les infos de midi. Tanguy Passureau, bonjour.
Bonjour.
L'actrice Gwyneth Paltrow a surpris tout le monde ce week-end.
Ah ouais. Oui, parce qu'elle a une boutique en ligne de produits à la con d'Hollywood, un genre macramé en poil de Leonardo DiCaprio qui lui sont prélevés par ses fans au petit matin. Et hier, elle a annoncé vendre une bougie parfumée intitulée This Smells Like My Vagina. Hein, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, sachez juste qu'on n'est pas sur de la lavande.
Non, mais
à tout de suite.
J'ai envie de l'acheter. On en parle après.
Oh, c'est chaud.
La bande originale avec les lacs de
Rosalie,
Marina Rollman, Daniel Morin,
bonjour Marina,
Dom Villa, Tanguy Passureau et nos invités Céline Salette et Cadmirad. Bonjour. Nous allons continuer de parler avec Mélissa Plaza du football, mais je rappelle que ce film a pris une bagarre. Toute l'équipe de football de Clourière, on est dans le Nord, hein, c'est ça? Cad, Merad.
Oui, pardon, oui, on est à Clourière, une ville qui n'existe pas.
Le Nord imaginaire.
C'est une ville imaginaire, excusez-moi, bah, ça va, je regardais les haters.
Il y a du boulot.
Il y a du taf.
Toute l'équipe est suspendue jusqu'à la fin de la saison, il reste 3 matchs, voilà. Il leur faut un point pour sauver ce club qui risque de disparaître puisqu'ils sont dans la dernière division possible et imaginable. Ça existe, c'est vraiment ça, il y a 7 divisions.
Oui, jusqu'à 7 divisions, et au-delà de la 7e division, merci beaucoup monsieur pour ce café très gentiment servi par vos proches. Et et en fait, oui, ça existe. À partir du moment où on est dernier de la dernière division, le club peut disparaître. Ce qui est fou quand même. Hein.
S'il manque, il manque ce fameux petit point. Et ce sont les femmes, exclusivement les femmes, qui vont tout faire pour finir le championnat.
Un championnat de garçons, faut bien préciser.
Voilà. Sauver. Je ne sais même pas si d'ailleurs c'est l'un des sujets.
C'est possible.
Bah, c'est le sujet du film, donc on ne va pas non plus le dire.
En tout cas, rien ne l'empêche. Si...
D'accord.
Oui, rien ne l'empêche.
Voilà. Il n'est pas écrit, mais Mélissa Plaza, dans le règlement, qu'une équipe de foot ne peut pas être mixte.
Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, chez les jeunes, ça se fait beaucoup, la mixité.
Oui, bien sûr.
Jusqu'à un certain âge.
Jusqu'à 15 ans.
Ouais, jusqu'en première année de U15. Et après, ça s'estompe, effectivement. Donc, il y a une grosse perte de licenciés.
Alors, sur le football féminin, comment vous voyez le football joué par des femmes, tu vois, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que ça dépend des médias? Est-ce que le fait, par exemple, qu'un match soit retransmis à la télévision change totalement la donne et la perception auprès du public? Est-ce que vous pensez que c'est un travail de sponsor, c'est un travail de club qui doit investir? Quelle est la solution, vous qui connaissez, sans mauvais jeu de mots, le terrain, aussi bien pour y avoir joué que pour l'avoir observé et commenté?
Bah, il n'y a pas de solution unique, en fait. Je pense que tout le monde doit contribuer à ce que les femmes puissent pratiquer de façon décente, parce qu'il y a encore beaucoup de clubs aujourd'hui où elles sont pas pros, et elles s'entraînent dans des conditions difficiles, elles jouent dans des conditions difficiles, donc ça demande un investissement de beaucoup de personnes, les instances dirigeantes, bien sûr, en premier lieu. Les médias aussi, parce que on s'aperçoit bien qu'après la Coupe du Monde, on a beaucoup de licenciés, beaucoup d'éducatrices en plus, donc ça veut dire que ça inspire des vocations.
Est-ce que l'argent est le nerf de la guerre encore?
Évidemment.
C'est-à-dire les salaires que l'on donne aux joueuses aussi?
Bien sûr, aujourd'hui on a une moyenne salariale, alors officielle, parce que personne ne s'intéresse vraiment à la question, mais on a la Fédé qui affiche des chiffres à hauteur de 2 500 € bruts par mois, en sachant que dans cette moyenne, il y a les joueuses du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais qui
sont plus payées que les autres et qui
nettement plus payées et qui font exploser la moyenne.
C'est-à-dire
que
les autres sont au SMIC, quoi.
Oui, enfin ça c'est dans le meilleur des cas, ouais. Et en sachant que parmi les joueuses de D1 et D2, il y a seulement 10% des joueuses qui vivent exclusivement du football, donc toutes elles
donc
ont
si
un métier
le,
à côté.
Si le nerf de la guerre c'est l'argent, il reste les droits télé, donc les médias décidés, parce que c'est eux
et
qui...
Les sponsors, et ça veut dire sortir aussi des logiques de pot commun qui sont généralement... qui sont généralement utilisés par les clubs, et finalement il n'y a jamais rien qui revient aux filles, quoi.
Il y a des pays, et je ne vous embêterai plus avec mes questions après, il y a des pays qui sont en avance sur nous pour le football joué par des femmes.
Oui, forcément, mais on s'aperçoit aussi que c'est pas aussi simple que ça. Je pense aux États-Unis où c'est un sport exclusivement féminin et où finalement l'égalité salariale n'est pas respectée non plus.
Mais ils sont, en procès là.
Elles sont en procès, effectivement, ouais. Et alors même qu'elles ont remporté beaucoup plus de titres et qu'elles rapportent beaucoup plus d'argent, elles sont 8 fois moins payées que les joueurs qui sont éliminés en 8e de finale. Donc ça traduit bien quand même qu'il y a quelque chose d'autre là-dessous et qui est de l'ordre de la misogynie.
La différence au niveau mondial, je crois, entre le salaire d'une footballeuse et celui d'un footballeur, c'est la différence, ça va de 1 à 400.
Punaise.
C'est énorme.
Bon, ça va, c'est pas si gros que ça.
Mais juste rapidement, 400, je voulais dire qu'il y avait une super pièce de théâtre qui s'appelle Féminine, qui est mise en scène par Pauline Bureau, qui a été jouée à Paris au Théâtre des Abbesses et qui tourne maintenant un peu partout dans la France, qui revient sur l'histoire de la première équipe féminine qui s'est montée à Reims en 68, qui a réussi, qui initialement avait été mise sur le terrain pour faire un truc un peu d'animation pour une kermesse, voilà. Et on s'est dit, tiens, on va rigoler, on a qu'à mettre des filles, quoi. Et en fait, ces nanas sont mises à jouer et plutôt pas mal. Et elles ont même disputé une Coupe du Monde qui n'était pas officiellement reconnue à Mexico et elles ont fini 5e de cette Coupe du Monde. Donc il y a eu des vétérans.
Il y a eu un film aussi. Il y a eu un film.
Avec Max Boublil.
Avec Max Boublil, exactement.
Merci Mélissa Plata d'être venue. Je rappelle votre livre, cher Robert Laffont, Pas pour les filles. Mélissa ayant joué à La Roche-sur-Yon, Montpellier, Olympique Lyonnais, Guingamp et en équipe de France.
C'est parfait. Merci.
Je l'ai fait dans l'ordre. Bravo. C'est nous qui vous remercions. Voici Tanguy Pastureau. Vous, Tanguy, vous ne croyez plus au système marchand?
Non, je suis pour la décroissance et le retour au principe du troc. C'est-à-dire que contre cette chronique, je veux n'importe quoi sauf du fric. Comme une peau morte de Carlos Ghosn rapportée de Beyrouth par Léa Salamé. Oh. Ou un stagiaire de troisième que je pourrais foutre dans une roue afin de le regarder tourner. Parce qu'à odeur semblable, le stagiaire de troisième nécessite moins de soins qu'un hamster. Du Biactol, un peu de cheat, un accès premium à Pornhub et un casque Bluetooth pour écouter PNL. Oh. Le capitalisme est mort ce week-end. RIP BFM Business. Fuck Nicolas Dose et François Langlais. C'est Philippe Poutou qui avait raison. Un vieux t-shirt, un hamac, des palmitos, ça suffit pour mener une super vie. Pas besoin de SUV, de bel appart, de vacances à Saint-Barth. Si une fois dans l'eau, c'est pour se taper Jade et Joy Hallyday en train de dire du bien du single d'Aya Nakamura, autant aller à Dunkerque, 14 nuits en Airbnb, c'est 40 euros. Et au moins, vous ne chopez pas de coup de soleil, il n'y a pas de soleil. À tel point qu'à la plage, vous devenez translucide. Et alors que vous êtes étalé sur le ventre, sur votre serviette, des méduses sortent de la flotte et vous font l'amour par le bas du bassin. Oui, rangez vos thunes, à poil Bernard Arnault, Jade Lagardère au Lidl de Dijon. Le système marchand n'a générique du malheur. Et là vous vous dites, mais comment Pastureau, ce cheval de Troie du centrisme, qui a infiltré France Inter pour mieux y faire entrer dans 2 ans Nicolas Bétou du journal L'Opinion, peut-il se renier ainsi et rejoindre les rangs de la gauche prolétarienne, incarnée par Louise Michel, Gavroche et Raquel Garrido? Eh bien, ça vient d'un choc que j'ai subi hier dimanche, jour du Seigneur et de l'hygiène douteuse. J'étais sur le net, en train de chercher tranquillou des infos sur Cadmerade, parce que quand on reçoit un invité pour la première fois, quelqu'un qui n'a encore jamais fait de promo, je me renseigne. Donc je tape sur Google « Cadmerade nu », rien. « Cadmerade est-il juif ?» Là, un seul site intitulé « ilssontpartout.com » me dit que oui, ainsi que Faudel, Youssoundour et surprise Jean-Marie Le Pen. Enfin, je tape « Cadmerade est-il gay ?» Rien. Aucune des recherches banales sur Cadmerade n'aboutit. Par conséquent, envahi par l'ennui, comme le Koweït par Saddam Hussein en 90, je vais sur le site de BFM TV, afin de voir si Édouard Philippe, qui a annoncé retirer provisoirement l'âge pivot de la réforme des retraites, a avoué qu'il le remettra le 4 août quand tout le monde sera en vacances. Et là, enfer, damnation, discographie du groupe 3 Cafés Gourmands, je tombe sur un article intitulé, je cite, « Gwyneth Paltrow met en vente une bougie qui sent comme son vagin ». Un instant, j'imagine Alain Duhamel, qui à l'âge du papa du père Fouras et boss à BFM, réaliser que son employeur publie ce genre de choses et décédé devant son Pentium 2 connecté à AOL. Et là, alors que j'adore les odeurs corporelles, un mois une fête de village collée sur le podium entre Patrick Sébastien et Miss Lavandou, alors que les deux ont dansé les sardines sous 35 degrés, ça me plaît, parce que j'aime l'animalité que ça génère. Et ben là, je suis révulsé. Pardon, mais le vagin de Gwyneth Paltrow, je refuse d'en avoir l'odeur dans mon salon, parce que j'ai déjà mis 3 ans à m'habituer à la senteur violette irisée de chez Durance.
Alors comment cette actrice célèbre mondialement a eu l'idée de vendre cette bougie parfumée?
Eh bien parce qu'elle ne tourne plus trop, Nagui. Elle s'ennuie nuit. Et quand on s'ennuie, on a vite fait de commercialiser une bougie qui sent comme son vagin. Hein. Heureusement que Benoît Hamon ou David Douillet n'ont pas de vagin. En tout cas, ils n'en parlent jamais. Sinon, on aurait droit à leur bougie. Alors le site de BFM explique. En fait, il y a tromperie. Gwyneth dit « Je travaillais avec mon parfumeur sur une bougie » parce qu'elle a une boutique en ligne où elle vend des niaiseries genre brosse à dents fabriquée avec des poils de ses jambes, 700$. On a donc fabriqué la bougie, raconte Gwyneth. Quand on me l'a fait sentir, j'ai crié « Oh, ça sent comme un vagin !» Et la blague est restée. C'est-à-dire que H24, on nous vend le glamour d'Hollywood, Laurent Veil aux Oscars est en sueur dès que Brad Pitt lui fait un clin d'œil, et Paltrow en gros fait les mêmes blagues que Tex. Hein, vous mettez Gwyneth à côté des Bodins, les Bodins font classe. Et donc la bougie aujourd'hui est vendue sous le doux nom de « This melts like my vagina ». En France, ça flaire comme mon oui-oui. Hein, si après vous avez des amis à la maison, tout le monde se regarde en se demandant « Qui sent cela ?» Alors remarquez, ça peut faire l'objet d'une discussion, hein, ça permet de parler d'autre chose que de la météo. Donc pour ceux parmi vous, chers amis du public, qui souhaiteriez sentir le vagin, hein, ce serait sympa parce que là, le mélange d'Axe pour homme au musc et d'Anaïs de Cacharel, ça donne envie de vomir. Sachez que la bougie « Smells like my vagina » est à 75$. Seulement, la vie est un chien femelle, elle est en rupture de stock. Le vagin est très tendance. Hein, dans le top 3 des trucs qui reviennent en ce moment, il y a 1. La CGT, 2. La pop française à base de synthé, 3. Le vagin. Alors, pas d'inquiétude, Gwyneth Paltrow travaille actuellement à une nouvelle bougie intitulée « This smells like my father's rectum ». Hein, ça va être un délice. Alors en fait, nous dit BFM, qui est devenue la chaîne spécialiste des bougies parfumées au sexe, la bougie est composée d'extraits de géranium, bergamote, cèdre, rose de damas et graines d'ambrette. Tout ça mélangé, ça donne vagin. Hein, ce n'est pas pour rien que chez Jardiland, toutes ces plantes ne sont pas vendues dans le même rayon. Hein. Le Star System, plus que jamais, se vautre donc dans le mauvais goût. On n'est pas à l'abri d'avoir un jour une bougie qui sent le pénis de Kenji Girac. Et tant que seront vendus des objets de ce genre, je suis pour la chute du capitalisme.
Merci, Dani Bosco.
Sur France Inter.
Ça a existé, Madonna avait sorti un parfum au goût de sperme.
C'est pas vrai.
Si, je t'assure.
Au goût?
Enfin, à l'odeur.
Comment tu sais? Comment tu sais?
Pardon.
C'est pas à voir.
Réaction.
Il faut pas voir le parfum, Nagui.
C'était faux.
Ah, donc ça existe depuis longtemps, genre de truc, d'accord.
Non, parfum de... Ouais.
Genre raconter ses rêves, Nagui, c'est dangereux.
Non. Mais écoute, tape Madonna sperme, tu vas avoir des trucs très intéressants. Tu vas
des recherches sur... l'historique après.
Des recherches sur Internet. Comment vous a présenté Mohamed
Ali? Transition.
Quel parfum vous mettez?
Quel est le goût?
Comment ce film vous a été présenté? Ça vous a été présenté comme étant une formidable histoire humaine, une aventure humaine dans un village, comme des rapports au sein d'une société, comme un clin d'œil au football joué par des femmes, puisque on s'entraîne à le dire comme ça. Comment Mohamed Hamidi vous a présenté le foot en disant voilà, c'est un film sur il mettait en avant le foot ou il mettait en avant les rapports humains et le jeu justement sur quel rôle à l'homme, quel rôle à la femme dans la société?
Ben, le film est fait des deux. C'est vrai que Mohamed a l'habitude de dire qu'il a écrit ce film parce qu'il a grandi entouré de femmes. Il a 6 sœurs, je crois, si je ne me trompe pas. Mmh. Et plus sa mère, ça fait 7, ça fait beaucoup. Et du coup, il a grandi avec cette entouré de cette puissance du féminin. Moi, je sais, pour avoir fait la Polonide, que quand il y a une bande de... C'est pour ça que j'ai accepté le film, en dehors du fait que c'était une comédie, que c'était avec Cad et que c'était le film de Mohamed. Dans les films de bande féminine, il y a cette puissance du gynécée, j'allais dire. C'est trop, c'est trop compliqué, mais non, il y a quand même une force du féminin. Et donc, ça fait... C'est ridicule, parce que j'ai pas de mots, mais il y a une... grande puissance qui émane de cette voilà, bon, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Merci, au revoir.
on a compris, je crois.
Voilà.
Non, c'est même touchant d'ailleurs que que ce soit tellement fort qu'il n'y ait pas de mots pour décrire cette force-là.
Ben ouais, je sais pas quoi dire, mais c'est vrai que quand les femmes se retrouvent ensemble, et là en l'occurrence qu'elles font corps, il se passe clairement des trucs qui ne se passent pas autrement.
Et elles se soutiennent les unes les autres aussi, nous, dans les doutes de l'une ou dans les...
Et nous comme actrices, on a vraiment... je l'avais déjà vécu moi, encore une fois, quand aussi les actrices sont aussi des femmes libérées, des femmes libres, je sais pas comment dire. Elles sont pas plus libres que les autres, mais un petit peu. Donc c'est beaucoup plus drôle, beaucoup plus grand, beaucoup plus intéressant, passionnant.
Est-ce qu'il faut dépasser le stade de la concurrence, le stade de la compétition?
En réalité, c'est ça qui se passe quand on tourne ensemble entre femmes. On réalise qu'il n'y a pas tellement cet esprit-là. Les femmes sont pas tellement habitées de cet esprit-là. Et puis en vrai, moi je l'ai beaucoup dit, mais je crois qu'il n'y a pas tellement de compétition entre les actrices. Une actrice est appelée pour un rôle parce qu'à ce moment-là, c'est elle, c'est pour elle. Et puis voilà, c'est pas pour l'autre en fait, c'est comme ça. Il y a des moments, il y a des phases, on ne représente pas toutes la même chose, on ne porte pas toutes les mêmes charges. Et donc on est complémentaires. Et on le voit bien quand on est en bande.
C'est la première fois que vous jouez avec autant de comédiennes.
Et ça fait du bruit.
Et de partenaires en même temps. Ça change quelque chose?
J'ai beaucoup aimé tourner avec ces femmes, ces actrices, toutes si ça différentes porte, les unes que les autres. Ça apporte, je sais pas, c'est, moi aussi, je suis entouré de beaucoup de femmes dans ma famille. J'ai beaucoup de tantes, par exemple, que je continue de voir en FaceTime, parce que la plupart sont en Algérie. Et j'aime la force des femmes, j'aime la, je sais pas, comme elle dit, c'est beaucoup plus simple en fait de tourner avec des femmes qu'avec des hommes. Voilà.
Ah oui.
C'est vrai, il n'y a pas de concurrence, ce sont des femmes sœurs, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de séduction, il y a juste des femmes qui veulent partager et être dans un projet et donner tout ce qu'elles ont. Et quand ça se passe comme ça, c'est formidable, vraiment.
Céline Sallette, donc, fait partie de cette belle équipe. Sabrina Ouazzani, Laure Calamy également. Je vais continuer de citer les filles.
Marion Mézédorian, Alexandra Ross.
On dit Mayra?
Mayra, ouais.
Ah d'accord, Mayra, okay. Tillian. Mayra Tillian. Manika Auxir, Marion Mézédorian, vous l'avez dit, Alexa Roth. Et puis côté garçon
aussi, hein.
André, voilà. André Vils, Guillaume Guiz également, et Alban Ivanov qui est totalement dingue aux côtés de Kad Mera dans ce film. Une belle équipe. C'est vrai que c'est important de connaître cette cohésion-là et ce côté tout le monde va dans le même sens. C'est ce qu'on ressent aussi.
C'est exactement ça.
Et sur le terrain et dans le tournage, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'équipe que nous avons ici autour de cette table, puisqu'il y a Daniel Morin.
Oh là 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 là.
Quelle ordure. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un fait divers qui s'est passé en fin d'année dernière, mais dont je n'ai appris l'existence que ce week-end. Un fait divers aussi vrai que génial. Un monsieur âgé qui voyageait entre la Chine et les États-Unis a été sauvé d'une mort atroce par deux médecins qui se trouvaient dans l'avion. Le petit vieux avait la vessie bloquée. Si on ne faisait rien, ça pouvait exploser et tuer le pauvre homme. Reconstitution.
Non.
Pardon, excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Allez, un petit pipi. Pipi, pipi, pipi. Allez. Ça ne vient pas.
Faut faire comme dans Mon nom et personne,
oh là là.
Faut siffler.
Ben oui, il faut essayer, mais ça marchait pas. Au bout d'une heure, deuxième tentative. Pardon, excusez-moi, faut que j'aille aux toilettes. Allez, un petit pipi. Oh, mais c'est pas vrai, ça! Saloperie de vessie. Ça ne vient toujours pas. Le petit vieux n'en peut plus. Il se sent mal. On appelle les médecins. Ils arrivent vers le souffrant. Leur diagnostic est sans appel. Il reste 6 heures de vol. Il ne tiendra jamais. La vessie doit être vidée au plus vite. Si on ne trouve pas un moyen pour siphonner la vessie du passager, ça peut exploser et provoquer sa mort. Mais comment faire? Il n'y a aucun matériel médical dans l'avion. Tant pis. Ils vont faire avec les moyens du bord pour venir au bout de cette mixtion impossible.
Oh, joli!
Aiguille. Paille.
Oh,
Tube de masque oxygène. Rubber adhésif. Alors? C'est en place, mais ça coule pas. Comment ça coule pas? Bah, ça coule pas. Problème de pression. On fait quoi? Pas le choix.
Non.
On aspire. Pourquoi cette musique? C'est pour m'aider psychologiquement. C'est la musique du film Cocktail. Alors ça va. C'est même plutôt bon. Je prendrais bien une olive ou des cacahuètes. Allez. Oh, t'es con. Vas-y, continue. Ça a duré 37 minutes, l'opération aspiration d'urine. Chapeau bas, messieurs les médecins. Le petit vieux a été sauvé.
À bravo. Demain.
Merci. La bande originale. Avec Nagui.
Une belle histoire.
Une belle équipe sortira donc ce mercredi au cinéma. C'est un beau film.
On n'a pas cité David Salle, Oscar Cope aussi.
Pardon.
Qui font partie des garçons et des maris et des gens importants
dans le
film.
Et toutes les femmes qui ont joué avec nous, qui étaient des vraies footballeuses. Voilà, Valentine, Corinne, évidemment.
C'est un vrai film.
Tu as raison, collégial et de troupe, absolument.
David Salle dans un rôle de salopard, ça lui va tellement bien.
Mohamed Hamidi, on est le réalisateur et j'imagine l'auteur. J'ai pas fait gaffe au scénar. C'est lui qui porte ce film à bout de bras.
Il y a même une scénariste aussi.
Avec Alain-Michel Blanc et Camille Fontaine.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. L'année 2020 sera faite de quoi pour vous, Céline Sallette? Il y a un projet d'un One Woman Show? D'un seul en scène? Musical?
Ouais, ça c'est... Inch'Allah, on y arrive. C'est difficile d'écrire des musiques, des textes et tout ça. Donc ça
prend du temps. Mais c'est notre rêve.
Ouais. J'adorerais faire ça, ouais.
D'accord.
Et ensuite,
là, en 2020, il va se passer quoi?
J'écris. On a tourné avec Jonathan Cohen là, une série qui s'appelle La Flamme, qui est aussi une comédie.
Jonathan Cohen.
Ouais.
C'est estampillé.
Avec un casting absolument dément. C'est un remake d'une parodie américaine du Bachelor.
Et on pourra le voir où?
Donc, il est le Bachelor sur Canal.
D'accord.
Ça va être en octobre. J'ai un autre projet de film qui va se faire dans l'année, mais voilà, je ne sais pas exactement quand. Une comédie aussi. Non, mais ça va être bien.
Et CAD, le théâtre?
Oui, mise en scène, mars. Première mise en scène au théâtre.
C'est vous qui allez mettre en scène et qui allez jouer.
Exactement.
Une pièce de David Fuenquenos.
Et d'Amanda Sterz.
Pardon. Les deux
Amanda
ensemble.
Amanda Sterz et David Fuenquenos.
Ça s'appelle Ami.
À la Michaudière.
À la Michaudière. Oui, c'est bien. Ami à la Michaudière, déjà, c'est facile.
À la Michaudière.
Avec
donc.
Claudia Tagbo.
D'accord.
Et Lionel Abelansky.
Ah, Lionel
Abelansky. Voilà, bah oui, on l'a vu.
Quel est le pitch, pardon?
Écoutez, vous connaissez Mythique?
Oui.
Pour les rencontres amoureuses.
Non,
eh ben, il y a un site qui s'appelle Amythique. Pour les rencontres amicales.
D'accord.
Donc, je vois débarquer Lionel Abelansky qui se dit être mon meilleur ami.
Expliquez-moi comment Amanda Sterz, romancière, David Fuenquenos, romancier, elle a écrit ses pièces de théâtre, lui écrit les siennes.
Mais ils ont écrit ensemble.
Oui, mais c'est ça que...
Ben, je sais pas, ils se sont appelés. Viens, tu veux pas écrire une pièce avec moi? Si, d'accord, à quelle heure? Jeudi, 8h.
Très bien.
J'en sais pas plus. C'est à partir du 3 mars au théâtre de la Michaudière.
Vous l'avez lu quand même, la pièce?
Non, pas encore. Non, si, bien sûr que vous l'avez lu, la pièce. C'est une pièce très drôle et je fais la mise en scène. C'est important parce que c'est la première fois que je vais me mettre en scène au théâtre. Et je suis très impatient.
Et ben je vois. Ouais,
et je vous signale la sortie de la troisième saison de Baron Noir le mois prochain.
Voilà. Qui arrive sur Canal.
Si ça vous intéresse, sur Canal Plus, puisque.
D'accord.
Céline a parlé de ça.
Qu'est-ce que tu as aimé dans Une belle équipe, Leïla?
Moi, j'ai aimé la puissance du collectif, le féminin.
Tommy, voilà.
Que l'égalité homme-femme progresse, mais il reste encore du boulot, il faut surtout rien lâcher.
Marina?
Mais je ne l'ai pas vu, mais je me réjouis d'aller le voir parce que je trouve que le cast a l'air assez dingue.
On a parlé beaucoup dans cette émission de vagin, de sperme et de vessie, donc je trouve que ça fait du bien de parler d'un bon film qu'on a envie de voir.
Daniel Morin?
Moi, au-delà de la problématique du film, ce que j'ai aimé, c'est un film qui défend le lien social dans les régions, et notamment
c'est vrai,
là, c'est dans le Nord, ça défend le lien social, je trouve ça très chouette.
Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise de votre film, Céline Sallet, de ce film, quand on sort de la salle?
J'adorerais qu'on dise « ça fait du bien, c'était trop bon ».
CAD?
Qu'est-ce qu'on aime être heureux, en fait? Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des gens?
C'est pour ça que j'ai pensé.
Est-ce que c'est bon d'être solidaire?
C'est pour ça que j'ai pensé à Capra.
Oui, c'est une référence. C'est mon film préféré.
On se fait une bouffe. C'est génial. Et on le regarde à nouveau.
C'est le film qui m'a. Camping, on fait comment du coup?
Toi, tu viens pas.
C'est le film qui m'a bouleversé, qui continue de me bouleverser. J'ai vu un soir au Ciné Club sur France 3.
Et tu pleures, évidemment.
Je pleure, je ris. Première seconde, moi. De la pharmacie, déjà, je sais déjà.
Au moment où ça va mal.
Ouais, c'est terrible.
Moi, je pleure avant d'appuyer sur play.
Ah non, mais c'était.
Daniel Morin, des excuses à présenter.
Oui, bien sûr. Alors, déjà, désolé, bien sûr, pour Jamel Debbouze, dont l'immense modestie et la simplicité désarmante ont été malmenés par Céline Sallet. Alors, franchement, se déplacer en hélico.
Ah non, j'ai rien dit, moi.
Mais, faut savoir, les gars, que pendant la grève, ça reste le moyen de transport le plus sûr et le numéro un. Et puis, ça tue des ours blancs, d'accord, mais les ours blancs, ça vit loin de nous, on s'en fout. Désolé. Pour le soi-disant sportif bio vegano Nagui qui on l'a découvert ce matin est incapable de monter 4000 marches. T'emmerdes pas mon Nagui, tu montes en hélico, tu nous fais une Jamel. Désolé pour monsieur Rollman qui m'a appelé. En larmes à la pause, pour me demander de l'aider à obtenir l'asile politique marital. Courage mec, on va pas te laisser crever, on n'est pas comme ça, on va te sortir de là.
Merci Céline Sallet, et plein de bonnes choses. Cadmeran, merci d'être venu à ce micro aussi. Une belle équipe, c'est ce mercredi au cinéma, on vous encourage à le voir, ça fait du bien. Demain Thierry Lhermitte sera notre invité, et parce qu'on l'aime bien aussi, et tout de suite sur les carnets de campagne, pardon pour ce retard, Philippe Bertrand.
Merci les amis, à demain.